Bonjour, François Bégodeau. On est très heureux de vous recevoir à nouveau sur Mind Explorer. Cette fois pour échanger sur votre dernier ouvrage, Du Mépris, paru à Cosperdu Édition, dont vous êtes le cofondateur. C'est un texte qui est fidèle à la ligne de cette maison, qui vous est fidèle parce qu'à la fois il harmonise quand même assez bien un style littéraire et une réflexion militante avec cet humour qu'on vous connaît maintenant. Mais surtout, il a cette thèse très forte, s'il y a des choses dignes de mépris, il y a une dignité du mépris. C'est ce que vous écrivez, alors on va tester ça, si c'est vrai pour le mépris de classe, si c'est vrai pour le mépris culturel, si c'est vrai pour le mépris tout court, s'il y a une dignité du mépris comme vous l'écrivez, j'aimerais qu'on s'attelle à voir ensemble comment en faire bon usage. Alors, comme souvent, hein, vous incarnez tout de suite la réflexion par une situation concrète, pleinement incarnée, pleinement vécue. Et en l'occurrence, vous initiez l'ouvrage par un échange avec un internaute, par mail, qui finit par vous faire le reproche d'être méprisant. Je cite: Pourquoi tout de suite ce ton condescendant? Vous dit-il. Un conseil, arrête de rendre les gens, de prendre les gens de haut. Tu seras peut-être moins détesté. C'est pas la première fois qu'on vous fait ce petit reproche, je suppose, et vous avez en plus la double accusation d'être un bourgeois. Donc la question c'est celle-ci, est-ce que le mépris dont vous accuse tout du moins est-il toujours de classe? Si vous êtes un bourgeois, lorsqu'il est exprimé envers un inférieur social, est-il nécessairement toujours de classe?
Bah, c'est un petit peu la parade de certaines personnes quand on entre dans une contradiction avec eux. Là, en l'occurrence, ce jeune homme, je crois, me contacte et dit une aberration. Parce qu'il me dit un truc très précis, mais qui est une aberration, et il a le droit de le dire. On a le droit de se tromper, mais c'est une erreur. Il dit, j'ai suivi une vidéo de toi, et à un moment, tu dis qu'il faut séparer radicalement l'art et la politique. Bon. Comment dire, tous les gens qui m'ont un peu suivi, ne serait-ce qu'ici quand on avait fait notre premier entretien autour de Communemule, mais tant d'autres fois, je n'arrête pas, au contraire, d'explorer les nuages entre l'art et la politique. Simplement, j'essaie de les jouer à nouveau frais. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais je voulais quand même préciser ça parce que une des choses que je dis dans le livre, c'est que souvent les accusations de forme sont des accusations de fond. Donc moi, j'aime bien revenir au fond. Au départ, quelqu'un me dit quelque chose qui est, bon, comment dire, non pas stupide, mais complètement à côté de la plaque. Donc je peux lui faire remarquer d'abord de façon un peu légère, délicate, avec un peu d'humour, et puis comme il insiste, alors là, la sécheresse me vient, et j'ai une formule un peu plus lapidaire pour les conduire et le renvoyer à ses études, ou en tout cas aux études, c'est-à-dire, bah, écoute-moi mieux la prochaine fois, parce que là vraiment tu fais une erreur d'inattention, donc je pourrais le traiter à ce moment-là de consommateur de série, ce qui est toujours pour moi un peu l'insulte suprême. Et donc oui, à ce moment-là, évidemment, il n'est pas très content, et je comprends qu'il ne le soit pas, et il dit, ah là voilà, ton petit ton condescendant, ou quelque chose de cet ordre-là que tu viens de citer. Bon, je voulais resituer les choses, parce que l'examen de mon mépris, du degré de mon mépris à ce moment-là, ne peut être qu'indexé à ce dont on est en train de parler. Est-ce que, d'une certaine manière, son défaut de discernement ne méritait pas qu'un peu, quand même, je le prenne à un moment de haut, puisque lui-même s'était mis plus bactère en disant n'importe quoi. Donc, je voulais resituer un peu les choses là-dessus. Après, effectivement, je suis en position de force par rapport à lui. C'est même pas tant, d'ailleurs, de par ma situation sociale économique pure. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si je suis plus riche que lui. Je ne connais pas ce jeune homme. Mais en revanche, j'ai un capital social supérieur à lui, bien sûr. D'ailleurs, c'est lui qui me contacte. Il me contacte comme quelqu'un qui apparaît publiquement, alors que lui est plutôt un anonyme. Donc, je suis en position de force. Et là, effectivement, il serait fondé à me dire que bah, tu abuses de ta position dominante. Et là, on fraye avec quelque chose qui, dans d'autres lieux, pourrait s'extrapoler en mépris de classe. À savoir, ah ben oui, dès que quelqu'un d'une classe supérieure à quelqu'un d'autre émet une réserve ou une critique par rapport à cet inférieur social, très vite on peut sortir l'accusation de mépris de classe. Et elle est souvent justifiée. Je trouve qu'elle est souvent inopportune. Et je trouve que même, c'est parfois une façon de ne pas parler de la chose même. Là, en l'occurrence, s'il dégaine, je sais pas ce qu'il fait lui d'ailleurs, mais l'accusation de mépris de classe, nous aurons perdu le point. Et ça pose un problème plus fondamental. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que je peux émettre une critique sur un inférieur social quand je la trouve légitime et pertinente? Sans immédiatement me voir retourner, moi ou d'autres, hein, l'accusation de mépris de classe, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'on ne pourrait donc critiquer que des égos sociaux. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est un peu la suite du livre, et je pense qu'on va y venir. Qu'est-ce que je fais quand j'ai affaire à un prolétaire qui émet du racisme? Donc je m'interdis de prendre de haut un peu son racisme, parce que je pense que le racisme mérite qu'on le prenne de haut. Je trouve que c'est un sentiment méprisable, et donc je trouve légitime de le mépriser. Et oui, mais quelqu'un va me dire, oui, mais tu comprends, c'est un inférieur social, donc tu fais du mépris de classe. Ça devient quand même compliqué, cette affaire, quoi. Et c'est dans cette difficulté-là que j'ai écrit le livre. Je dis, comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec cette espèce de, comment dire, de surveillance générale qui s'est beaucoup activé c'est depuis 10 ans, où on a l'impression que beaucoup de gens sont devenus des traqueurs de mépris, que tout le monde a des antennes sur le mépris, et que au moindre truc, on se voit accusé de mépris, et donc du coup, comme d'habitude, on perd de vue, encore une fois, ce qui me paraîtrait le plus important, c'est ce dont on parle.
Et vous partez de là justement pour effectivement pointer, identifier tout du moins tous les mésusages qu'il y a de cette notion de mépris de classe, et j'aimerais qu'on les aborde tranquillement, à commencer éventuellement par peut-être la récupération par la droite du mépris de classe.
Oui, ça, c'est, bah, comment dire, j'ai commencé à écrire le livre, je crois, il y a maintenant 1 an et demi, on va dire, et puis après, bon, la rédaction se prolonge, évidemment. Je dois dire que cet aspect-là n'a pas vieilli, n'est pas démodé depuis 1 an et demi, parce que je pense que même la tendance s'est intensifiée. Je vois, je constate empiriquement, et n'importe qui peut le constater avec moi, que, notamment, par exemple, les dirigeants du Rassemblement National, hein, parti d'extrême droite, les cadres du Rassemblement National ont souvent recours à la parade dont je viens de parler, à savoir, si jamais on commence à incriminer le corpus idéologique du Rassemblement National, sa dangerosité éventuelle, ce qui d'ailleurs est déjà la liberté de tout le monde. On a le droit de trouver dangereux le RN, on a le droit de ne pas être complètement d'accord avec le corpus idéologique du RN, je pense, hein. Mais à chaque, il arrive assez souvent maintenant dans l'espace public que si on attaque ça et que donc aussi on met dans le lot les électeurs RN, on peut pas complètement les exonérer. Comment dire, ce sont pas simplement des petits moutons, des petits chouchous qui sont un peu victimes de la propagande qu'ils subissent de la part des cadres. Ils sont aussi responsables de leur vote, hein. Il faut les prendre comme tels. Je pense que d'ailleurs c'est les respecter que de prendre des choses comme ça. Voilà, c'est les tenir pour responsables de leur de l'idéologie qu'ils colportent. Et donc, si jamais on émet des réserves vis-à-vis d'eux, eh bien, les cadres du RN ont trouvé la parade absolue, implacable, c'est du mépris de classe. Puisqu'il est entendu qu'il est bien vrai qu'une bonne partie de l'électorat RN appartient aux classes inférieures populaires, pas autant qu'on le dit, mais tout de même, il y a quand même une large part de gens issus des classes populaires qui votent RN ou qui s'apprêtent à voter RN. Bon, ben voilà, donc fin du truc. C'est-à-dire que tu auras beau dire que tu trouves que l'expression d'un nationalisme agressif est fondamentalement toxique, qu'elle est par ailleurs très injurieuse vis-à-vis de tout un pan de la population, hein, les racisés, les gens qui n'ont pas comme ça une généalogie sous chienne. Donc ils émettent de l'agressivité, et si nous, en retour, on dit « vous êtes quand même très agressif, là, vous êtes quand même en train de condamner et stigmatiser tout un pan de la population qui n'a quand même rien demandé », eh bien, non, bah, c'est du mépris de classe. Parce que nous autres, du RN, nous sommes populaires. Bon, fin du truc. Donc je vois bien que l'accusation de mépris de classe, qui a priori aurait été estampillée de gauche, hein, puisque tout ce qui convoque la notion de classe dans l'espace public est plutôt affilié à la gauche, et pour cause. Et donc le mépris de classe comme appendice à la problématique de classe serait, comment dire, appartiendrait au corpus de gauche. Eh ben en fait, c'est pas vrai. C'est fini. Et je vois mes amis de gauche continuer à beaucoup utiliser cette notion, le mépris de classe, et de le voir partout. Je dis, mais méfiez-vous, parce qu'une fois qu'on a dit mépris de classe, maintenant on n'a rien dit, dans la mesure où regardez quelles personnes en font même usage. Je raconte même d'autres usages encore plus drôlatiques et encore plus savoureux et cocasse de la notion de mépris de classe. C'est par exemple un essai que j'avais lu d'un essayiste de droite, d'un journaliste du Point, je crois, respectable comme quiconque sur cette terre, mais qui nous démontrait quand même avec beaucoup de larmes, enfin qui essayait de nous tirer quelques larmes en nous expliquant que Nicolas Sarkozy avait beaucoup essuyé du mépris de classe dans sa vie. Parce que lui venait d'une petite bourgeoisie de Neuilly, au fond d'une moyenne bourgeoisie de Neuilly, et il avait essuyé du mépris de classe de la part de la grande bourgeoisie plus traditionnelle, et aussi de la haute fonction de la noblesse d'État, comme aurait dit Bourdieu. C'est-à-dire la haute fonction publique est passée par l'ENA, et comme lui n'est pas passé par l'ENA, le pauvre a dû essuyer énormément de mépris de classe. Je crois que dans le même livre, d'ailleurs, il était question de François Pinault, qui est quand même donc un milliardaire, hein, comme on sait, qui lui-même, petit entrepreneur breton à la base, avait essuyé du mépris de classe de la part disons, d'une bourgeoisie plus installée, plus durablement. Bon, Donc on voit bien que moi je propose, comme souvent dans mes essais, une sorte de moratoire, quoi. Je crois qu'en fait on ne peut plus utiliser cette catégorie. Elle est devenue un peu périmée dans la mesure où elle est l'objet de tout un tas d'usages frauduleux.
Et d'autant que le RN, effectivement, joue cette carte parce que c'est sa meilleure carte à jouer, compte tenu du fait qu'une partie du prolétariat vote pour le RN maintenant, on y reviendra. Bon, c'est sa carte stratégique, politique, un peu frauduleuse à jouer. Le problème aussi, peut-être surtout, c'est que la gauche semble s'être pris au jeu. Et vous citez notamment Rose Lamy qui tombe peut-être là-dedans en disant qu'il ne faut pas mépriser le beauf de droite parce qu'il y a là derrière un mépris de classe. Est-ce que c'est encore un mésusage selon vous?
Oui, je trouve que là, c'est un immense mésusage et je passe un certain temps quand même dans le livre à discuter le livre de Rose Lamy. Je me permets de discuter pour deux raisons. Il a eu un énorme succès et une grande visibilité à gauche, notamment, hein, parmi le lectorat d'essais de gauche, sachant qu'il était absolument indiscutable que c'était un essai de gauche, elle-même se disant de gauche, radicale, féministe, antiraciste, etc. Et la deuxième chose, c'est que c'est un livre qui est truffé d'erreurs, d'approximations au bas mot et d'erreurs tout simplement. Et notamment, il repose sur un grand écart de pensée, comme on parle d'écart de langage, que je retrouve un peu dans le libellé de ta question, parce qu'à aucun moment, Rose Lamy ne dit qu'il faut respecter les beaufs de droite. Elle dit qu'il faut respecter les beaufs. Il faut arrêter de faire de l'anti-beaufisme primaire, c'est parce que ça serait du mépris de classe. Mais précisément, elle ne dit pas de droite, parce qu'elle oublie une chose, c'est que le beauf, à la base, tel qu'il a été constitué comiquement par Cabu, hein, qui a commencé à caricaturer le beauf dans les années 70, c'est un peu vieux pour des jeunes gens comme vous, mais voilà, c'était très connu à l'époque. Moi, le mot beauf, je l'avais quand j'étais enfant ou adolescent, on se traitait de beauf. Et puis Renaud en avait remis une couche dans une chanson qui s'appelait Mon beauf, qui est d'ailleurs une super chanson. Et en fait, le beauf, pour Cabu, c'est précisément un mec de droite. Et qui est pas forcément un prolo. Tu peux avoir le petit artisan qui gagne bien sa vie, donc une classe moyenne, voire même une petite bourgeoisie, ce qu'on appelle les indépendants, il est beauf en tant que quoi? Non pas en tant que prolo, il est beauf parce qu'il est raciste, il est beauf parce qu'il est misogyne, il est beauf parce qu'il est homophobe. C'était ça le beauf de Cabu. Alors après, on a le droit de trouver que cette critique était peut-être un peu hautaine, et qu'elle venait peut-être d'un certain milieu intellectuel artiste contre des gens un peu plus archaïques et provinciaux. Ok, on peut toujours jouer ce truc-là. Mais à la base, le beauf, c'est pas un prolo. Si un prolo est de gauche, il est pas beauf. C'est tout. Si un prolo n'aimait pas, à la fin du repas, comme il arrive à mon beauf, à moi, à mon beau-frère, mon vrai, des maîtres, des trucs, un peu, des petites, comme ça, des petites piques contre les assistés. Bon, les assistés, on sait bien qu'en général, ils sont un peu noirs et arabes, hein, enfin, dans un certain imaginaire. Donc, c'est du doux racisme, on va dire. Mon beau-frère n'est pas quelqu'un de méchant. Mais, une espèce de doux racisme comme ça, là, il se comporte en beauf. Et c'est à ce titre-là que peut-être je pourrais lui faire remarquer que, écoute, ne me gâche pas ma tarte aux pommes, s'il te plaît. Déjà, sur BFM et sur CNews, j'entends à longueur de journée que les assistés sont assistés, et que ce sont des parasites, ce sont des gens qui intoxiquent la nation. S'il te plaît, fous-moi la paix, laisse-moi manger ma tarte aux pommes, et on va reprendre un café. Et parce que là, il s'est comporté comme beauf. Et effectivement, Rose Lamy nous fait une défense du beauf. Je le dis un moment, le beauf qu'elle peint serait l'équivalent d'un serial killer qui n'aurait tué personne. C'est pareil pour moi, ça m'a fait le même effet. Donc elle invente un beauf qui n'existe pas. Et donc tout son livre tourne autour d'une figure qui n'existe pas. À la fin d'ailleurs, elle fait un portrait de la beaufette, mot qu'elle invente, mais c'est très bien. Bon, sa beaufette, en fait, elle est super, quoi. Moi, j'adore sa beaufette. Moi, j'ai plein de copines beaufettes. Elles sont de gauche, elles sont féministes, elles sont antiracistes, anticapitalistes, elles militent dans des trucs écolo radicaux. Voilà, c'est vraiment mes copines avec qui j'ai grandi et avec qui j'ai vieilli. Ben non, c'est pas ça une beaufette. Une beaufette, c'est la femme de commerçant qui en a marre qu'il y en a qui squattent en face, là. C'est celle qui dit, oui, puis bon, il y a trop d'impôts, puis l'État, il nous pique tout. C'est ça la beaufette. Et puis par ailleurs, ouais, la racaille, là, qui est devant la gare, là, on se demande ce qu'ils font, hein, je veux dire. Et comment ils ont acheté leur Mercedes? Bon, voilà, ça, c'est la beaufette. Bon, d'ailleurs, qui peut avoir un certain charme, je veux dire, un charme de grande gueule, quoi. Mais ce n'est pas une amie politique. Et donc, je m'étonne un peu. C'est pour ça que je me suis permis de passer 5, 6, 7 pages, y compris sur le mépris culturel, mais ça je pense qu'on y reviendra, sur le livre de Rose Lamy, parce que je trouve que quand même, alors que les beaufs sont quand même en train de prendre le pouvoir, on pourrait le dire un peu comme ça, je résume, hein. Par exemple, je pense que nous avons un immense beauf à la tête de la première puissance mondiale. je trouve qu'il correspond assez bien hein, au profil du beauf. Et je dis ça d'ailleurs sans aller dans une espèce d'anti-Trumpisme que je trouve toujours un peu hystérique, ça va qu'il serait fou, qu'il serait teubé. Moi je crois pas du tout. Je crois pas du tout qu'il soit décérébré, pas du tout. Mais il est beauf. Enfin en tout cas, si beauf a un sens, on peut dire que Donald, il fait le travail quoi. Bon, donc ils sont en train de gagner. Et là, on nous sort un livre venant d'une essayiste de gauche qui nous explique oui, mais bon. Faut pas trop quand même les embêter parce que sinon c'est du mépris de classe. Voilà, non, c'est pas du mépris de classe. Quand je fais remarquer à mon beau-frère qu'il faut qu'il arrête avec les assistés, enfin pas quand je suis là, c'est pas du mépris de classe. C'est du mépris politique éventuellement. Voilà, j'ai quand même un certain mépris pour ce genre d'idée. Comment dire? Pourquoi j'aurais du mépris pour ce genre d'idée? Parce que ce sont des idées grégaires. Ce sont des idées entendues. À un moment, je prends cet exemple d'un type que j'entends dans un café et qui pérore au comptoir. Que les étrangers, ils viennent, ils profitent de l'AME, aide médicale d'État, pour venir se faire recoller les oreilles. C'est évidemment un truc qu'il a vu sur Internet, quoi. C'est un truc, c'est de la merde. Et donc là, on a affaire à quelqu'un qui est dans le déni de sa propre intelligence. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui m'entraîne dans le livre à dire que, en général, je méprise une position. Je méprise pas l'individu. Je méprise une position. Ils viennent se faire recoller les oreilles en France. Et c'est eux qui plombent le budget de la Sécu, tu vois. Je méprise donc une position et non pas l'individu, mais je la méprise dans la mesure où je sens que lui-même méprise sa propre intelligence. C'est lui, en fait, qui étale le mépris qu'il a de lui-même pour gober à ce point-là des conneries comme ça. Et par ailleurs, les pérorer dans un café, parce que c'est ça aussi l'élément qui m'agace dans cette petite scénette que je reconstitue, c'est qu'il vient me le cracher dans les oreilles à un moment où moi, j'ai rien demandé. Il est 9h, j'attends un rendez-vous médical, je pense que je lis un canard, bon. Et il faut que cette espèce de connerie vienne dans les oreilles. Donc, je trouve que ma réaction de mépris vis-à-vis de lui est une réaction, en fait, saine. C'est une de mes défenses du mépris. C'est que parfois, devant un truc qui cumule pour moi deux vices fondamentaux, c'est-à-dire, un, l'erreur, deux, l'agressivité, parce que des fois, il y a des gens qui sont dans l'erreur, mais ils ne sont pas agressifs avec leur erreur. Ils se trompent de bonne foi et ils ne le proclament pas. Ils n'en font pas l'article. Là, on a les deux. Mon réflexe de mépris est un réflexe qui me permet de rester calme, de rester serein, peut-être de pas le taper, quand bien même, je sais pas si tant est que j'en ai l'envie, parce que j'ai quand même pas... J'ai pas des pulsions bagarreuses comme ça, comment dire, impérieuses. Donc oui, là, ça serait ça la vertu du mépris aussi, quoi. C'est de dire, en fait. Mais j'y insiste, c'est lui qui se méprise, avant tout.
Ce garçon au comptoir est éventuellement un prolétaire, ouais. Mais aussi quelqu'un qui a un système de valeurs que vous combattez. Je vais prendre un peu de temps pour cette question parce qu'elle me tient à cœur. Dans l'essai qui précède celui-là, qui s'appelait Psychologie, vous cherchiez à montrer en quoi les structures sociales s'invitent dans nos affects psychologiques particuliers et nous permettent de mieux les comprendre. Un employé qui pète les plombs sur son milieu de travail, un professeur qui pète les plombs, que sais-je encore, on sera souvent enclin à prêter ce phénomène-là à des dispositions, des vulnérabilités psychologiques individuelles. Vous vous rappelez qu'il ne peut pas les vivre autrement parce qu'il y a des enjeux structurels, comme on sait. Ici, dans Du Mépris, avec cette investigation où on voit que le mépris n'est pas toujours que de classe, etc., on a l'impression que parfois, vous faites le mouvement inverse. À savoir que des affects psychologiques très personnels peuvent finalement participer à expliquer mieux l'ordre social. Par exemple, pour justement parler des électeurs RN, qui est un fait de société, et on voit qu'il y a quand même une proportion significative de prolétaires qui votent RN, bah vous proposez quand même une hypothèse assez psychologique. C'est-à-dire que vous proposez qu'éventuellement ce soit une démarche distinctive. C'est-à-dire que tout prolétaire qu'il soit, l'électeur RN, à travers son vote, se dit « moi je suis du côté de ceux qui bossent et je me distingue des prolos, immigrés, oisifs et suceurs d'alloc, comme chacun sait ». Et donc là, il y a un enjeu qui est très psychologique finalement. Est-ce que vous êtes résolu à l'idée que des enjeux pas matériels, pas structurel, purement psychologique et individuel, bout à bout, peuvent finir par constituer un facteur déterminant dans l'ordre social? François Desgodeaux.
Excellente question, dans la mesure où elle m'incite à affiner ma pensée, ou en tout cas à affiner mon propos, et à mieux clarifier les choses. Tu fais bien de rappeler que l'opération que je faisais dans psychologie, opération d'ailleurs classiquement, je dirais, de gauche, en tout cas, imbue ou nourrie de sociologie, en tout cas des postulats de la sociologie, à savoir nous sommes des êtres sociaux. Et même nos plis psychologiques sont des faits sociaux. En fait, ce que je faisais à la suite de tant d'autres avant moi, je socialisais la psyché. Là où effectivement, dans une certaine pensée libérale, il y a comme ça, on isole parfois la psyché comme si elle était un phénomène qui tombe du ciel, elle n'est pas constituée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas conditionnée. C'est une espèce comme ça d'abstraction essentialiste un peu. Et donc je faisais cela. Je crois pas y déroger dans du mépris, mais tu as raison, ça mérite quand même un tout petit peu de précision. Si je reprends l'exemple, c'est vrai que je convoque souvent des catégories psychologiques pour rendre compte d'un phénomène, y compris d'un phénomène collectif. Il me semble effectivement qu'il y a dans le vote d'extrême droite, ou dans l'adhésion aux idées d'extrême droite, ou dans, voilà, peu importe qu'on vote ou pas d'ailleurs, en tout cas, l'éthos d'extrême droite ou le tempérament d'extrême droite, il y a précisément une composante de ressentiment, ce qui est une catégorie psychologique. Il y aurait aussi, je crois fondamentalement, une composante de jalousie. Alors, tu dis distinction. Oui, j'essaie de dire, contre justement cette idée qu'il faudrait quand même un peu respecter les électeurs du RN en tant que prolétaires. Ils sont quand même les plus bas que terre dans une société, et nous qui sommes de gauche et qui avons toujours quand même pour postulat ou pour axiome fondamental de nous tenir du côté des gens de peu, ou des gens qui n'ont rien, ou qui ne sont rien, comme dirait l'autre, eh bien, on devrait à ce titre-là respecter les électeurs du RN, en tout cas des gens qui seraient tentés par ce genre d'idées. Il y a plusieurs choses à dire, et qu'il faut préciser d'abord un fait sociologique. En fait, il n'est pas vrai que les gens qui votent RN soient le bas de gamme de social. C'est pas du tout les classes les plus inférieures. Et je pense même qu'on pourrait dire, et des sociologues l'ont dit avant moi, mais je pense qu'on l'a tous un peu constaté empiriquement d'ailleurs, quand on croit ce genre d'individus, que ce sont des gens qui ont quand même encore un peu quelque chose à perdre. Ils viennent parfois de la petite bourgeoisie, de la petite classe moyenne ou de la classe moyenne qui est en voie de précarisation et en voie de déclassement. D'où panique, d'où le sentiment que ça y est, ils vont se retrouver maintenant les vrais inférieurs, ils vont vraiment se retrouver au fond du fond, et ça les panique parce que c'est ça une sorte d'atteinte à leur dignité, d'une certaine manière, ce qui peut se comprendre, et donc ils vont évidemment, par suite, vouloir incriminer plus bas qu'eux. Et c'est là qu'intervient la stratégie de distinction. Donc je dirais que sur les distinctions, c'est un fait social, totalement. Là, on n'est pas du tout dans Bégodeau qui aurait de nouveau un accès d'essentialisme psychologique. La notion de distinction, d'ailleurs, vient de Bourdieu, hein, donc en tout cas, c'est lui qui lui a donné, je dirais pas ses lettres de noblesse, mais en tout cas, sa consistance sociologique. Donc là, vraiment, ces phénomènes-là sont des phénomènes absolument sociaux. Mais si tu prends, par exemple, le ressentiment, en fait, tu trouveras toujours... Pourquoi est-ce que comment se fait-il qu'il y a des individus à qui vient le ressentiment, qui sont comme ça imprégnés de ressentiment et qui vont un peu l'exuder dans une sorte de colère politique ou de et parfois dans des affects un peu troubles comme le racisme. C'est un fait social aussi. Je suis sûr qu'en creusant un peu, je pourrais faire le travail de dire qu'il y a une généalogie de ce ressentiment. Le ressentiment qui est venu, je ne veux pas faire des analogies rapides, mais ça me vient là maintenant à titre de clarté. Le ressentiment massif qui est venu au peuple allemand dans les années 20-30 et qui a produit son adhésion, pas aussi massive qu'on dit, mais quand même significative au nazisme, mais pour cause, venait du ressentiment, lequel venait de l'immense amertume qui était venue à ce peuple d'avoir été spolié après la guerre. Bon, d'abord perdu la guerre, entre guillemets, mais surtout, je veux dire, le traité de Versailles, c'est vraiment, c'est une humiliation du peuple allemand, c'est une humiliation de l'Allemagne, alors qui est d'ailleurs une immense erreur fondamentale, une erreur de gestion diplomatique. Bon, mais parce que probablement que les Français, les Anglais et autres avaient très très envie d'enfoncer l'Allemagne, quoi. C'était une façon comme aussi de dégommer ce qui était la grande puissance européenne de l'époque. Il fallait l'achever, il fallait la piétiner. Ça a produit par ailleurs une précarité économique extraordinaire en Allemagne. On connaît bien ça, on a tous vu ça dans nos cours d'histoire ou ailleurs. Et donc le ressentiment massif qui vient au peuple allemand à ce moment-là, qui va s'extrapoler en adhésion au nazisme, est un fait social, est un fait socio-politico-économique. Et je pense qu'à chaque fois, si tu veux, on pourrait faire le truc. Alors après, où je te donnerais totalement raison, c'est qu'une fois que c'est constitué socialement un affect, par exemple le ressentiment, par exemple la volonté de distinction, par exemple le mépris ou le sentiment d'être humilié, ou enfin les sentiments, alors celui-là devient pratiquement un agent historique en tant que tel. Mais en oubliant presque son origine généalogique, il devient un agent historique. Mais ça, je pense que tu sais, dans la tradition matérialiste, ça n'a jamais été nié, hein, par moi, pas plus que par d'autres. À savoir, Les plus farouches des matérialistes, historiques ou autres, ont toujours dit qu'à un moment, quand même, les affects ont une efficace historique. Une fois qu'ils sont constitués socialement, ils finissent par faire masse, et cette espèce de psyché collective devient un agent historique. Et donc, je crois qu'effectivement, là, maintenant, on en arrive presque à un vote. Moi, je suis très surpris, je le dis à un moment, d'ailleurs, je le disais déjà dans Psychologie, d'ailleurs, mais fondamentalement, moi, je pense que les électeurs RN, puisqu'on parle d'eux aujourd'hui, puis c'est normal qu'on en parle, parce qu'encore une fois, ils sont quand même en train de gagner, donc bon. Je crois qu'ils s'en foutent fondamentalement de ce que ferait leur candidat une fois au pouvoir. C'est pas une vue de l'esprit, ce que je dis, c'est que j'ai constaté, j'en ai croisé quelques-uns, et des fois, un petit peu, je suis un peu taquin, je leur dis, les modèles actuels, les pays où l'extrême droite a déjà pris le pouvoir, ça va? Ça te va, ce qu'ils font? Parce que, voilà. À chaque fois, j'ai comme, oh, je sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas. Ben, Mélanie, t'as suivi quand même un peu, parce que c'est quand même un peu ton. Enfin, moi qui suis un peu communiste sur les bords, si demain des communistes prenaient le pouvoir en Pologne ou en Slovaquie, je regarderais, mais jour après jour, ce qu'ils font, pour voir si, ben, je suis content, si au contraire, comme d'habitude, ça part en vrille, comme souvent dans les précédents historiques, qu'est-ce qu'il y a à en tirer, pas en tirer, enfin, je serais au taquet. Ils s'en foutent. Donc je crois fondamentalement qu'ils s'en foutent concrètement de ce que des conséquences que ça aura dans le réel véritable d'une politique d'extrême droite, quoi, dans leur réel comme dans le réel des autres. En revanche, effectivement, je pense que la composante psychologique est dominante maintenant. Hein, c'est ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Ça va être un moment comme ça, un truc un peu d'ailleurs agressif évidemment. C'est ça va enfoncer la gueule des gauchias, quoi. Et éventuellement des Arabes et des Noirs. Je vois, une espèce de truc comme ça, on va pouvoir un peu se venger. Là, il y aura un truc où on est chez nous, quoi. C'est nous qui avons gagné. On va arrêter de se faire mépriser, parce qu'effectivement, je pense que les électeurs RN se sentent souvent méprisés. C'est vrai qu'on parle d'eux à la télé, toujours de façon extrêmement négative. Je trouve un peu moins depuis quelques mois. Et je pourrais préciser. Mais oui, bien sûr. C'est vrai qu'ils en ont marre. Ils en ont marre de voir les comédiens et les comédiennes au César et au Molière et au Festival de Cannes toujours postuler que oui, non, mais vraiment, maintenant, par les temps qui courent, l'extrême droite va arriver. Donc oui, je vois bien, moi je l'ai la scène, hein, l'électeur RN, il est devant sa télé, il a envie de les défoncer, quoi. Il a envie de les dégommer. Et je le comprends, je le comprends. Et je pense que ce ressort ressentimental-là, est particulièrement efficient dans le mouvement qui est en train de, bon, bah de gagner la France et de prendre le pouvoir probablement à terme.
On a des affects identitaires pour le coup, au sens politique, au sens psychologique, c'est-à-dire se définir à travers ces catégories groupales, bah ça donne de l'élan et ça maintient pourquoi pas un statu quo aussi.
Dans quel sens tu dis statu quo?
Le statu quo, bah ça va donner de l'élan éventuellement à le mouvement politique de droite et maintenir cet élan-là,
Bah,
quel que soit ce que va faire le RN concrètement dans leurs conditions.
ouais. Mais c'est un truc qui est beaucoup discuté à gauche aussi, d'ailleurs, de voir dans quelle mesure, comment dire, comme disait l'autre, les structures font pas la révolution. Donc toi, tu arrives avec ton ingénierie analytique de gauche extrêmement sophistiquée pour dire l'analyse structurale des trucs, ce qu'on fait vachement à gauche. Il y a une grande intelligence, il y a une production textuelle et intellectuelle de gauche qui est. Non, mais je veux dire, mais moi, je vais pas dire le contraire. Je trouve qu'il est extrêmement subtil à rendre compte de l'état du monde, sauf qu'effectivement, c'est pas mobilisateur. Et on sait bien que ce qui est mobilisateur, c'est effectivement plus des choses affectives, des affects. Ça, je le mesure bien. Hein. Je pense qu'il faut. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Hein. J'ai toujours dit que finalement, la gauche, avant même d'être intelligente, il faudrait qu'elle soit séduisante, il faudrait qu'elle ait comme ça, qu'elle soit un peu plus rock'n'roll. Je le dis dans mes termes à moi de boomer. Voilà, tout ça, oui, il faut savoir produire ça. Et je pense que bon, cette affaire de mépris peut être aussi intéressante, quoi, justement. C'est-à-dire que dire, si vraiment ce qui va fédérer les gens d'extrême droite ou de droite, voilà, puisque de toute façon tout ça est en train de faire bloc, c'est vous êtes méprisés et nous vous offrons une espèce de vengeance affective contre les gens qui vous ont toujours méprisé. Bah, c'est pas mal que la gauche se mette un peu au diapason pour dire, mais en fait, nous on vous méprise pas, les amis, on vous méprise pas du tout. Juliette Binoche vous méprise au César, mais c'est pas toute la gauche déjà. On n'est pas aussi con qu'elle. Hein, on n'est pas des grands comédiens qui montons les marches. C'est pas ça en fait l'idée la gauche, quoi. On est plus précaire que vous ne le croyez. Et deuxièmement, moi je crois que vous avez tout à fait raison de vous sentir méprisé, mais je crois que d'abord vous vous méprisez vous-même. Donc ce qu'on vous propose à gauche, disons les choses, c'est une vraie dignité. Parce que est-ce que c'est vraiment très digne? Est-ce que c'est te rendre ta dignité à toi, l'électeur RN, que de t'offrir une scène dans un meeting où tu gueules, on est chez nous. C'est vraiment ça la dignité? On est chez nous, comme ça, lancé collectif. Ça, vraiment, j'ai un immense mépris, moi, pour ça. Je n'ai pas de mépris pour l'affect patriote. Je pense juste qu'il est une erreur politique. Je n'ai pas de mépris pour l'affect nationaliste. Je pense juste qu'il est un égarement politique. Par contre, j'ai énormément de mépris quand je vois les gens chanter à tue-tête, on est chez nous, dans les meetings. Ça, vraiment, je trouve c'est minable. Et donc là, les mecs, vous voulez retrouver votre dignité, je comprends très bien. Mais ne faites pas des choses indignes comme ça. Ne faites pas des choses indignes comme ça. C'est trop facile, votre truc de vous planquer dans une foule pour dire en gros, les Arabes, cassez-vous. C'est ça que ça veut dire, on est chez nous. Hein. C'est un dog whistle, je dirais, pas très discret.
Et du coup, ouais, vous avez vraiment cette, ouais, vous avez quand même une conscience du ressort affectif de toute cette question. Parce que ça fait du coup partie de nos questions. C'est qu'on voit bien que le mépris, du coup, vous l'abordez d'une façon à la fois psychologique et aussi de façon politique. Donc vous conseillez notamment aux classes populaires de transformer leur ordre social en mépris envers la bourgeoisie quelque part. Mais du coup, là, c'est le registre psychologique. Donc c'est un remède un petit peu individuel qui en général est un peu moins l'apanage de la gauche. Mais du coup, d'un point de vue politique, la vertu du mépris, est-ce qu'elle n'est pas inverse? C'est-à-dire que puisqu'on reconnaît que le prolo n'est pas une essence, mais bien l'héritier d'une structure, est-ce que finalement, c'est pas précisément en méprisant sa condition prolétaire qu'il met en lumière l'existence des classes et qu'il affirme son refus de ce qu'elle fait de lui?
C'est très fin. C'est très très fin. Et là, je dois bien avouer que mon livre, à un moment, rentre dans une zone qui serait justiciable de l'objection précédente qui m'était faite, en tout cas de la question contradictoire ou critique. Parce que c'est vrai que, disons, dans le pan propositionnel de mon livre, j'aime pas du tout ce mot, mais je le dis comme ça, genre, comment est-ce qu'on. Enfin, je prends presque des accents de guide individuel. Et souvent, en écrivant ces lignes, je me suis fait l'effet de ce que dit Marx un peu, de, je sais plus à propos de quoi, de ce noyé qui voudrait se sauver en se tirant par les cheveux. Quelqu'un est en train de se noyer et il essaie de se sauver en se tirant par les cheveux. Parce qu'effectivement, tu vas dire à un prolétaire, comment dire, retrouve ta dignité, c'est-à-dire ne te méprise pas toi-même, méprise les dominants. Mais demander ça à un prolétaire, c'est presque lui demander précisément de s'affranchir de sa condition prolétaire. Parce que c'est précisément sa condition prolétaire qui fait qu'un, il est méprisé par les dominants. Et c'est surtout sa condition prolétaire qui fait que, en fait, il encaisse, il prend à vif ce mépris. Il le prend à vif. C'est un dialogue que je restitue un peu dans le livre, enfin, que j'ai eu avec une amie qui est smicarde et qui travaille en ce moment dans une petite entreprise de déménagement, enfin, de location de camionnettes de déménagement. Et bon, vraiment bas de gamme parce que, enfin, bas de gamme. Ouais, son sort est peut-être finalement plus enviable que tout un tas de gens dans ce pays qui s'appauvrit. Mais globalement, au SMIC, surtout, elle est une subalterne et elle subit une espèce de petit patron, le gérant en fait de la boutique, qui est pénible. Qui est pénible, à côté d'ailleurs de goujaterie, de bon aloi, de cet homme vis-à-vis de cette femme. Surtout, oui, globalement, il a des formules un peu méprisantes, un peu humiliantes, une espèce de douce humiliation. Et je vois qu'elle me parle que de ça. Je dis, mais c'est vraiment que ça qui te fait chier dans ton quotidien? C'est pas de te lever à 7 h du matin pour faire 50 bandes parce que t'as pas les moyens d'habiter dans la ville? De rentrer parfois à 20 h parce que, évidemment, ils t'imposent des heures sup qui disent pas leur nom? Enfin, c'est-à-dire une espèce de stricte condition prolétaire, quoi, finalement, de subordination économique et sociale qui fait que elle a vraiment une vie compliquée, quoi. Elle a plus de temps pour elle, etc. Et non, elle, ce qu'elle va le mettre en avant, c'est le petit mot qu'il va dire juste avant d'aller déjeuner ou le matin en arrivant, la petite remarque sur les bottines, les trucs comme ça. Ça, quoi. Et je dis, ben quand même. Donc en fait, il suffirait que ton manager, ton gérant soit le mec le plus sympa de la Terre, vraiment respectueux, et ton quotidien, ça irait. Tu crois pas que tu perds de vue l'essentiel? J'étais un peu paternaliste en lui disant ça. J'étais un peu paternaliste, bien sûr, j'en suis bien conscient. Et elle n'en a pas démordu. Elle m'a dit, oui, ben moi je pense que mon quotidien ira quand même beaucoup mieux le jour où il me parlera mieux, quoi. Comme quoi, c'est vraiment important. Et moi, je lui disais, évidemment, je faisais un peu mon. Le type qui veut se sauver de la noyade en se tirant par les cheveux. Je lui disais, il suffirait que tu méprises son mépris. Méprise son mépris. C'est un pauvre type. T'arrêtes pas de me dire que c'est un pauvre type. C'est vraiment une espèce de pire des cons, en fait. à tous égards. Un beauf, un peu, d'ailleurs. Et même méprise-le. Et elle me dit, mais je n'arrive pas à le mépriser. Pourquoi? Parce qu'il est en ascendant économique sur moi, et donc c'est compliqué pour moi d'arriver à mépriser quelqu'un qui a droit de vie et de mort sociale sur moi, d'une certaine manière. Il peut virer demain, en fait. Voilà. Et donc oui, je sais bien que ça ne se décrète pas. Là, je suis très très conscient de, non pas de la limite éthique de ce que je suis en train de poser dans le livre, mais de la limite économique et sociale, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est compliqué quand tu es humilié par quelque chose et quand ça te blesse. Quand le mépris qui vient des dominants te blesse, c'est compliqué d'entendre le mec qui arrive derrière, là, un peu facile, doigt, main dans les poches, bégodo, et qui dit mais écoute, il suffirait que tu les écoutes pas. Enfin, je veux dire, tu t'en fous de ce qu'il dit. Ça ne se décrète pas. Bon, en même temps, je maintiens quand même, d'où ma fin un peu lyrique, que ce serait l'horizon idéal, quand même. L'horizon éthique et psychologique idéal pour la sérénité de tous, ça serait qu'on méprise absolument ceux qui nous méprisent, en tout cas les dominants qui déversent du mépris sur nous. Ça, je crois que c'est pour moi c'est la clé. Après, je n'ai pas le mode opératoire pour y arriver.
Ouais, bah j'y pense maintenant, mais parce qu'à votre décharge quand même, vous avez eu cet échange avec cet ami là qui travaille en tant qu'assistant de direction, je
C'est
crois.
ça, oui, enfin, c'est le mot officiel, mais qui est un peu ronflant par rapport à ce qu'elle fait, quoi.
Mais il y en a encore une autre qui vous partage le fait de s'être senti humilié face à un recruteur. Et là, au lieu de lui dire mais t'as qu'à le mépriser toi aussi, bah vous prenez l'autre solution, à savoir mais est-ce que plus que la personnalité de ce recruteur qui te mépriserait, c'est pas la structure, l'organisation du travail qui te met en position de subordination humiliante? Et même là, elle saisit pas la solution que vous lui donnez, elle finit par vous dire tu m'emmerdes avec tes structures. Donc, il
Oui,
propose une situation.
c'est un exemple totalement analogue. Enfin, ils sont ces deux exemples très parallèles et analogiques dans le livre. Donc, tu fais bien de les convoquer à ce moment-là, ouais.
Mais c'est-à-dire que vous proposez soit la solution beaucoup plus politique et donc groupale, elle s'en saisit pas, parce qu'elle, ce qui à ce
Non.
moment-là l'affecte et la requiert, c'est voilà,
Ouais.
des enjeux psychologiques, narcissiques, enfin narcissiques. On s'entend, quoi. Mais par ailleurs, quand vous proposez une solution individuelle, ils n'arrivent pas à s'en saisir non plus.
Il y a une chose que j'aurais pu lui dire et que je mentionne pas précisément dans le bouquin, parce que j'ai d'autres situations en tête et qui sont vraiment du même acabit. Une chose qu'on peut faire dans une situation comme celle-là, effectivement, entretien d'embauche, donc il y a quatre personnes, quatre embaucheurs qui officient ce jour-là avec évidemment la mort qu'on connaît bien les entretiens d'embauche, que je trouve toujours le dispositif le plus pervers de l'histoire du monde social. Hein, je veux dire vraiment, c'est une dégueulasserie. En même temps, c'est psychologiquement passionnant. Moi qui aime le théâtre des affects, alors les entretiens d'embauche, moi je bois du petit lait. Quand j'en vois dans des documentaires, bon, c'est passionnant. Vraiment, là, on comprend beaucoup de choses. Ce que j'ai pu dire parfois à d'autres amis confrontés à ce genre d'humiliation, c'est dire, n'oublie jamais un truc. C'est que ceux qui sont les embaucheurs sont aussi des prolos. Alors évidemment, ils sont un peu au-dessus de toi, sinon ils seraient pas en train de. Mais eux aussi sont en train de faire de la comédie. Eux aussi, on peut supposer qu'ils endossent un rôle. Ils endossent un rôle social, à savoir justement d'être un peu cruel, un peu sadique, un peu tatillon. Ils vont probablement d'ailleurs abuser de leur position. Moi, j'ai connu ça quand j'ai fait partie de jury parfois comme prof et puis ailleurs aussi. Ça vous vient très vite hein, de devenir un connard quand vous avez la responsabilité d'être dans un jury. Hein. Vous la pétez un peu quand même. Hein. Et si, quand bien même au début de la journée, parce que souvent ça dure une journée, vous êtes arrivé vraiment très modeste, très humble, je vais pas sadiser les candidats. Franchement, moi, j'ai pas du tout envie de leur faire vivre ce que moi-même j'ai vécu, parce que voilà, vous êtes humaniste. À la fin de la journée, vous êtes un peu devenu un petit connard quand même. Ne serait-ce que parce que la journée est longue, et vous en avez ras-le-bol de les voir défiler tous. Et très très vite, la position de domination devient, comment dire, abus de position dominante. Comme on dit juridiquement ou judiciairement. Mais ce que je pense que c'est quand même pas mal d'avoir en tête l'idée, on a affaire aussi en face à des travailleurs, eux aussi sont pas si à l'aise qu'ils en ont l'air, eux aussi sont en train de jouer. Et d'ailleurs, entre eux, ils se surveillent. Entre eux, ils se surveillent beaucoup. Les uns pourront très très bien fliquer les autres et aller rendre compte au N plus 1 qu'en fait, finalement, c'est pas un très bon recruteur, etc. Si, je pense que c'est toujours une bonne voie. Et encore une fois, je sais bien qu'il ne suffit pas de le déclarer pour que ça prenne effet, mais je pense que c'est toujours intéressant de voir que même les gens qui ont l'air les plus assurés dans leur position dominante sont eux aussi pris dans une chaîne de subordination et qu'eux aussi jouent un rôle et que probablement qu'il peut même arriver qu'ils soient pas complètement fiers de ce qu'ils font quoi. Je veux dire, c'est moi je pense qu'on peut donner des mais c'est vrai que là je rentre un peu dans un côté manuel de survie en monde social pour ne pas comment dire ajouter à l'aliénation objective de nos situations, l'humiliation, ou en tout cas des travers, des déboires, enfin des déconvenues psychologiques, quoi. Et je crois que c'est toujours une très très bonne façon, mais c'est presque la Boétie, en fait, hein, finalement, ce que je suis en train de dire. Aussi élevés soient-ils, ils ne sont jamais élevés que par ton consentement et ta docilité. Enfin, en tout cas, je trouve qu'en général, d'ailleurs, voilà, on surestime beaucoup trop, non pas l'ascendant économique qu'ont les dominants, qui est réel, ça c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais leur prestige de dominant. Je crois qu'en fait on leur accorde encore un peu trop de prestige. Ce que j'avais déjà dit à propos des gilets jaunes, que je trouvais un peu obnubilé par Macron à un moment. Je trouvais que la figure de Macron était devenue obsessionnelle dans le mouvement des gilets jaunes, qui est un mouvement qui avait toute ma sympathie. Mais pas cet aspect-là, parce que je trouvais que là, il y avait, se rejouait d'une certaine manière une fascination pour le dominant, qui se traduisait en l'occurrence par une répulsion. On t'aime pas Macron, Macron connard, casse-toi d'ici, on veut plus te voir. Oui, mais enfin quand même, c'était fait avec une telle monomanie que je trouvais qu'il y avait encore un reliquat de fascination et d'admiration. Et bon, donc oui, je pense que quand même, c'est jamais inintéressant de rappeler aux dominés que le dominant sont quand même beaucoup moins consistants que ce qu'on a eu tendance à croire, par intériorisation d'ailleurs des rapports de classe.
Mépris est un vocable rideau dans mépris de classe, mépris occulte classe. Mépris de classe m'affine, mais aussi m'épaissit, m'éclaire autant que m'égare, m'arme autant que désarme, car il est heureux pour le dominant que la colère se porte davantage sur son mépris que sur sa situation inégalitaire qui l'assaisonne de dédain. Il n'y a pas de question, mais je pensais que c'était bien de conclure ce passage par cette
mais
citation.
Oui. Mais tu vois, là, finalement, on tient la clé de la raison pour laquelle les cadres du RN ou de partis approchants n'auront pas eu trop de mal à assimiler, ou en tout cas à faire leur, le mépris de classe. En fait, les rapports de classe, les rapports de subordination de classe, ça, ils n'en parlent pas beaucoup, en fait, fondamentalement, les gens d'extrême droite. C'est pas trop leur corpus, évidemment. Par contre, mépris de classe, ça marche bien, parce que moi, je pense que l'extrême droite est fondamentalement un camp conservateur. Quoi qu'ils disent, ils auront beau toujours se piquer d'être nous, vraiment, on est des électrons libres, enfin, comment dire, on est anti-système. Pas du tout, c'est évidemment un parti conservateur. D'ailleurs, que le bloc conservateur a tendance à approuver de plus en plus. Bon, comme par hasard. Donc c'est des conservateurs, et mettre en avant le mépris de classe est fondamentalement conservateur. Parce que, bah, ma foi, si le problème c'est le mépris et pas la classe, il suffit d'enlever le mépris puis on garde les classes. Voilà, gardons les structures, gardons évidemment l'organisation sociale générale, simplement les patrons parleront un peu mieux aux subalternes. Ce qui est déjà d'ailleurs totalement présent dans un certain nouveau management, hein. Ça fait très très longtemps que dans les entreprises, on préconise que les managers soient très sympas avec leurs collaborateurs. D'ailleurs, ils disent collaborateurs. Ça fait très très longtemps que le happy management, ça existe, ou le management lean ou doux, tout ça, ça existe. Et qui est d'ailleurs un calcul de performance productive, d'ailleurs souvent dans l'ingénierie capitaliste. Soyez sympas avec vos ouvriers, vos employés, parlez-leur bien, ils seront d'autant plus performants. Ils auront moins de somme contre vous, et ils seront d'autant plus habilités, ils auront plus d'inclination à faire le boulot que vous leur demandez. Si vous êtes gentil avec eux, bah, peut-être que le jour où vous leur demanderez de rester 2 heures de plus un soir parce qu'il y a un truc à finir, bah, ils le feront plus volontiers. Bon, donc, finalement, centré sur le mépris de classe et non pas la classe peut être tout à fait, et même je pense fondamentalement, une mise en évidence ou en tout cas une option conservatrice. Et ce qui reste révolutionnaire, en tout cas profondément subversif, c'est de s'attaquer à la structure de classe en elle-même. Donc oui, c'est vrai que je crois qu'en fait le mépris de classe est vraiment devenu non seulement le lieu d'une entourloupe, ça c'est sûr, on l'a déjà dit, mais aussi d'une certaine manière que le mépris de classe ait pris une telle importance dans le champ des discours, et mon livre est parti de ça, n'est pas sans rapport, n'est pas une contradiction et un paradoxe avec la droitisation de la société française. Finalement, ça va de pair. Et donc voilà, je trouve que c'est pas inintéressant de soumettre ça à mes amis de gauche, qui je crois, ont encore... Ils sont plutôt bien disposés vis-à-vis de la traque du mépris de classe comme quelque chose qu'on devrait faire urgemment, là, maintenant, Mais c'est aussi, je pense que à gauche, et ça reviendrait aux exemples qu'on prenait, là, enfin, qu'on a pris ensemble sur mes deux interlocutrices, l'une assistante de direction, l'autre en entretien d'embauche. Je crois que la focalisation sur le mépris de classe ou sur des affects vient aussi beaucoup de notre impuissance politique. Fondamentalement, nous avons quand même intériorisé le fait que ça va quand même être compliqué dans les 20 années à venir de déstructurer la société de classe. Je crois qu'en fait, que les gens les plus à gauche, au fond d'eux, savent que c'est quand même pas pour demain. Et donc, en attendant, on va plutôt s'attaquer à ce à quoi on peut s'attaquer, à savoir, puisque nous ne bougerons pas les structures, eh bien, bougeons évidemment les affects. En tout cas, soyons intransigeants sur l'expression des affects. Je pense qu'on en avait peut-être un peu parlé à propos de Comme une mule. Je voyais aussi dans le fait qu'on mette énormément d'énergie à gauche à traquer des prédateurs nommés, tu vois, qui célèbres pour la plupart. Je voyais aussi une sorte de compensation. Comment dire? C'est compliqué de péter le patriarcat. C'est compliqué de casser le patriarcat. Il vient de loin. Il est millénaire. C'est pas de mal à veille qu'on va le péter. Si jamais une structure existe qui s'appelle le patriarcat, ce que postulent pas mal de féministes, ça va vraiment être compliqué de le fissurer là, enfin, en tout cas, de le pulvériser dans les années à venir. Bon, en attendant, on va personnaliser un peu les choses. Hein, on va aller chercher tel ou tel individu. Ce qui est d'ailleurs pas une quête totalement débile. Mais voilà, je fais l'analogie parce que je crois que cette surfocalisation sur les affects est le symptôme du sentiment d'une impuissance quant à la possibilité de casser les structures.
La demande de respect croit là où décroît l'espérance politique. Vous le ramassez très bien dans cette phrase.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié cette phrase qui est pas mal.
Ah, quand même. Quand c'est bien écrit. Pour aborder un peu le mépris culturel, qui n'est pas tout à fait pareil que le mépris de classe, on en parlera. Bon, je voulais vous montrer un extrait qui est assez illustratif d'une confusion que vous pointez dans le livre.
L'ENA situation.
Typiquement, ceux qui sont un peu dans la culture légitime ont un tel mépris de l'ENA situation que moi, je dirais peuple, quoi. Même si maintenant, bon, bah, je pense qu'elle doit très bien gagner sa vie, puis elle a, que ça a fait des tapis rouges, c'est une méga star, quoi. Je suis pas sûr qu'elle fasse partie du peuple, mais en tout cas, non, vu ce qu'elle représente et vu la... Le mépris qu'elle dégage chez la bourgeoisie légitime, je dirais peuple.
Alors, que vous inspire cet extrait?
C'est d'abord un extrait très bien choisi pour qu'on puisse un peu parler de petites opérations théorico-pratiques que je fais dans le livre. Parce qu'on a le même billard à trois bandes que j'essaie de disséquer et qui embrouille bien les cerveaux, à commencer par le mien avant que j'écrive le livre, pour éclaircir un peu tout ça. Bah parce que oui, c'est quand même toujours la même chose. Nous avons l'ENA situation, c'est un phénomène social, voilà. Elle est méprisée, dit ce monsieur, par la bourgeoisie. Il dit ça. Et il dit même légitime. Genre la bourgeoisie légitime, ou il dit un truc comme ça. Et elle serait donc du peuple, etc. Ou alors pas vraiment du peuple, mais quand même en tant que méprisée par la bourgeoisie, du coup elle est du peuple, etc. Alors il y a un mot qui est totalement dépassé pour moi dans ce qu'il dit. C'est le mot légitime. Je pourrais dire que toute la partie sur la culture dans mon livre, qui fait à peu près le dernier tiers ou un peu plus, c'est pour dire la légitimité, c'est fini. Je vais trop loin, mais pour moi, tendanciellement, nous sommes en train de sortir de la grande dichotomie établie par Bourdieu. Maître Bourdieu, il y a une culture légitime, il y a une culture illégitime. Au moment où Bourdieu écrit ça, dans les années 60-70 notamment dans la distinction, c'est tout à fait vrai. Je crois que ça l'est maintenant beaucoup, beaucoup moins, et que ça va être toujours moins. C'est ça, je m'inscris dans une tendance. Hein. Je sais bien qu'il reste des pôles de légitimité, et peut-être qu'on y reviendra. Donc déjà, là, je pense qu'il y a une petite erreur. Si on prend le cas de la situation, il est tout à fait, intéressant. Elle fait partie... Alors, elle vient... on va dire peut-être des classes populaires, je ne sais plus exactement sa généalogie, mais oui, globalement. Bon, le fait est qu'elle ne l'est plus. Elle gagne excellemment bien sa vie, je crois. Tant mieux pour elle. C'est une femme qui a réussi, bravo. Je m'empresse de dire qu'en général, quand je l'écoute, ici ou là, je la trouve toujours assez intelligente, j'aime bien l'écouter. J'en ferai pas une thèse, mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un de plutôt articulé, plutôt charmant par ailleurs. Bon, mais elle est très riche. Donc là, déjà, ça nuance un tout petit peu le fait que quand on s'attaquerait à l'ENA situation, ce serait du mépris de classe, ou en tout cas, la bourgeoisie qui regarderait le peuple. Ben, quand même, si on est un petit peu loyaux aux situations économiques effectives des gens, l'ENA situation est une riche. Je pense qu'elle doit payer l'impôt sur la fortune. En tout cas, dans pas longtemps. Bon. Donc elle est, si moi, demain, il me vient, ce qui ne me viendra pas, de critiquer l'ENA situation, j'espère qu'on dira pas que c'est du mépris de classe. Je suis beaucoup moins riche qu'elle, quoi. Bon. Et beaucoup moins connue, par ailleurs. Alors après, évidemment, arrive une autre notion dans le bourdieusisme, qui est, il y a le capital tout court, et puis il y a le capital symbolique. Et là, bien sûr, des gens pourront me dire, si jamais je critique la situation, ce qui, encore une fois, n'arrivera pas, que, oui, non, bien sûr, tu es très inférieur à elle socialement, mais tu as une aura symbolique supérieure à la sienne. On va, toi, t'affilier plutôt à une haute culture, une culture légitime, une culture traditionnelle, les livres, j'ai écrit des livres, je suis écrivain, ceci, cela, alors que la situation opère plutôt dans le YouTube game, qui sont des secteurs d'activité culturelle un peu moins légitimés, un peu moins symboliquement gratifiés. C'est pas complètement faux. Ça, on en est encore un peu là, c'est pas complètement faux. Je pense que ça l'est de moins en moins. Je veux dire, j'en veux pour preuve des opérateurs et des indicateurs que j'égrène dans le livre. Alors, pas à propos de la situation, parce que je n'en parle pas dans le bouquin, mais, comment dire, elle a écrit 2 livres, je crois, à ce jour, Léna Situation. Donc elle publie des livres aussi. J'en pourrais dire qu'on est écrivains tous les deux. Bon. Elle vend beaucoup plus que moi. Tant mieux. Bon. Je crois qu'elle a, je sais pas, ça doit être en centaines de milliers, à mon avis. Et chez un éditeur qui est peut-être un tout petit peu moins légitime dans la carte des légitimités que le mien, qui est Gallimard, en tout cas pour mes romans, hein, mon éditeur régulier, c'est Vertical, qui appartient à Gallimard. Bon, Gallimard, quoi. Mais en même temps, je viens de dire, bon, Gallimard, quoi. Mais qui se dit ça maintenant dans la société? Il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent, oh, Gallimard. Non. Je veux dire, on est une petite poignée de gens poussiéreux, désuets et surannés qui avons encore un peu d'estime pour le nom Gallimard en tant que Gallimard, la rue Sébastien Botin. Enfin, c'est des trucs complètement, voilà, moi, quand j'entends à la télé dire « oui, c'est très germano-pratin dans Saint-Germain-des-Prés », mais qui se fout de Saint-Germain-des-Prés encore maintenant ? C'est ça aussi, les légitimités, elles viennent aussi de la perception symbolique massive qu'on a par rapport à telle ou telle chose. Donc, je crois que Gallimard, le mot, d'ailleurs, est de moins en moins connu. Je le regrette, d'ailleurs, parce que j'aurais un peu plus de prestige à publier chez Gallimard, si... Bon, donc, je crois qu'au bout du compte, même en termes de capital symbolique, Léna Situation est en train de rattraper son retard par rapport à des pots de légitimité classique. Après, moi, j'ai des indicateurs... depuis l'histoire de Tabetti, j'ai un très très bon baromètre, en fait, de l'état de la bourgeoisie. Parce que là, c'est ce qu'il dit. Il dit « la bourgeoisie mépriserait Léna Situation ». Moi, ce que je constate, et que j'égrène dans tous les sens dans le livre, c'est à quel point la bourgeoisie s'est complètement ralliée au goût dit populaire. Totalement. J'en veux pour preuve l'émission épicentrale de la bourgeoisie centriste qui s'appelle Quotidien, qui est vraiment, d'abord, une bonne émission que je regarde souvent, et deux, un très bon indicateur de l'état de la bourgeoisie. Ils ont accueilli Léna Situation pour qu'elle vienne parler de son livre. Et ils l'accueillent toujours en princesse, enfin, je veux dire, sans aucune ironie. Oh, alors, c'est un succès, donc on va accueillir Léna Situation. Non, pas ça. Non, vraiment, c'est une copine, c'est une égale, ton livre est super, Ambre Chalumeau va nous faire une chronique pour nous expliquer que vraiment, le livre est super bien écrit. Voilà. Donc, en fait, là où la bourgeoisie fusionne avec le goût populaire, il n'y a plus la bourgeoisie qui serait détentrice du goût légitime, qui donc serait fondée à mépriser le goût illégitime qui serait celui du populaire, puisqu'il n'y a plus de dichotomie. Il y en a encore, hein, je l'ai précisé, je le reprécise. Bien sûr qu'il y a encore des stratégies de distinction culturelle de la bourgeoisie. J'en égrène quelques-uns d'ailleurs dans le bouquin. Mais globalement, je finis par dire, un jour, le jour est proche, et peut-être même qu'il a déjà eu lieu, alors où je vous parle, où Jules sera invité à Quotidien. Voilà. Jules, vraiment, le prolo marseillais, culture populaire marseillaise, le mec qui est en claquette, tout ça, et qui fait ce qu'il fait, bon, qui est vraiment un chanteur populaire, vraiment, on peut le dire, et puis populaire dans les deux sens du terme, hein, parce qu'il brasse des gens, je crois que c'est hier ou avant-hier qu'il a encore pété tous les records d'affluence, alors au Vélodrome ou au Stade de France. Bon, ben voilà. Donc, je pense que oui, bien sûr, bientôt, Jules sera sur un quotidien. Et donc, la réconciliation entre goût populaire et goût bourgeois aura été définitivement scellée. Je donne des explications dans le livre à cette réconciliation, mais en tout cas, j'en prends acte. Et donc, du coup, effectivement, de venir parler de mépris culturel, de la légitimité à l'illégitimité, me paraît, avoir 2 trains de retard.
Et puis, ça nous amène à cette distinction qui est vraiment centrale dans le livre, à savoir la distinction entre culture populaire et culture de masse. Si moi je critique, et ça n'engage que moi, les livres de Léna Situation, est-ce que je fais du mépris populaire? Si vous méprisez, vous l'avez peut-être déjà fait, un film de Marvel, est-ce que vous faites du mépris de la culture populaire? Vous montrez que non. Parce que ce sont des choses, sur les livres d'Alien la situation ou les Marvel, qui sont faits pour marcher aussi bien auprès de la bourgeoisie que des prolétaires. Donc lorsqu'on fait ça, vous et moi, on n'est pas en train de critiquer les braves gens du peuple sans le sou. Est-ce que vous, déjà, vous pouvez nous dire un petit peu cette distinction, la développer? Et puis surtout, on voit que vous avez du coup plus une dent contre la culture de masse que la culture populaire en tant que telle, mais finalement, qu'est-ce que vous lui reprochez?
Bon, d'abord, merci de t'associer, de venir dans la galère avec moi. Hein, oui, bon, c'est une distinction qui a déjà été faite hein, il y a très longtemps par des gens conséquents qui essaient de penser les choses calmement. Ce qu'on appelle communément et par une facilité de langage l'art populaire est souvent de l'art de masse. Bon. Où on confond d'ailleurs la notion de populaire comme une notion qualitative, qui d'ailleurs est problématique à définir, avec la notion quantitative. Serait populaire ce qui attire du monde. Bon. Mais il y a parfois des choses très luxueuses qui attirent du monde aussi. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, c'est le quantitatif n'est pas forcément le qualitatif populaire, ce grain populaire qui reste à définir et autour de quoi je rame un peu d'ailleurs dans le livre parce que c'est compliqué. Bon, premièrement, et donc en fait, ce qu'on appelle art populaire est souvent l'art de masse. En fait, c'est juste, c'est un art qui vise la masse pour des raisons d'ailleurs souvent industrielles. Je produis un film, je suis Hollywood, je produis un film dont le budget est de 400 millions. J'ai vraiment besoin de la masse pour le rembourser. Je vise, et donc il faut par ailleurs évidemment une extension du marché. Donc il faut qu'il devienne multinational et transfrontalier. C'est ce qui est arrivé aussi aux Américains, qui assez vite a été hégémonique, a voulu conquérir d'autres marchés. Au départ, je pense que le marché du cinéma américain dans les années 10, 20, 30, c'était relativement américano-américain. Et puis peu à peu, ils ont inondé le monde entier de leurs films, parce que pour étendre leur marché, ce qui est une pente bien connue du capitalisme. Et donc cet art, pas plus ni moins populaire que n'importe quoi d'autre, est devenu un art de masse, et un art industriel, avec des quantités industrielles, et pour encaisser les investissements industriels, il fallait des masses planétaires pour regarder. C'est tout, voilà. Donc effectivement, quand on émet une certaine critique, une désapprobation de Marvel, de franchise Marvel, auquel j'ai consacré un micro-ciné, par exemple, de 3h30, je crois, donc c'est pas non plus balayé du revers de main. Genre, oh, le Marvel, c'est pas pour moi. Non, d'abord, je m'en suis tapé 20, je les ai regardés, et j'ai essayé de dire en quoi ça me paraissait un art limité. Bon, j'y renvoie, parce que le mépris aussi, il n'y a pas de mépris quand on prend le temps déjà de considérer les objets. Je veux dire, parce que je dis au début du livre, le mépris, c'est ignorer. Il m'a méprisé, c'est il m'a ignoré. Bah, je n'ignore pas les Marvel, je les ai regardés attentivement et j'en ai parlé, j'ai vraiment essayé de réfléchir. Et j'ai même d'ailleurs parfois dit qu'il y avait des trucs, des unités de la franchise que je pouvais trouver intéressantes et même marrants. Donc voilà, donc c'est un art industriel, donc quand j'émets une désapprobation vis-à-vis des Marvel, je ne fais pas de mépris de classe, je ne fais pas de mépris culturel, j'émets un goût. Bon, voilà. Alors après, tu disais, qu'est-ce que je reprocherais fondamentalement à l'art de masse? Ben, pris comme tel, il me paraît, évidemment, en première analyse, et cette première analyse n'est pas complètement bête, presque contradictoire ou antinomique avec la conception de l'art que je peux avoir. Non pas au sens où je penserais que l'art est fondamentalement élitiste et que à partir du moment où il fait masse, il se dévoie comme art. C'est pas ça que je dis. Il y a du grand art qui peut être mondialement apprécié. Il y a des airs de Mozart qui sont appréciés, qui sont reçu comme chatoyant par des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de gens. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction entre un plaisir massif vis-à-vis d'un objet et le fait qu'il ait une consonance, enfin en tout cas une intensité esthétique. En revanche, le pari de l'art, c'est quand même de faire émerger les singularités. Les singularités. Nous reconnaissons un artiste ou une artiste en disant il ou elle fait les choses comme on les avait jamais faites. En tout cas, il a un grain à lui. C'est comme ça. On essaie de repérer des écrivains qui ont leur style, qui font avancer un peu l'histoire des formes. C'est quand même ça, la chose esthétique. Elle va beaucoup avec l'exception. Et donc, l'art de masse ne peut pas ne pas fonctionner autrement que par des standards. Je ne peux pas prendre de risques quand je vise des centaines de millions de personnes. Quand je suis en train de produire un film, je suis en train de fabriquer un film, toute une chaîne de production, et je vise le marché chinois, je vise le marché indien, je vise le marché français, le marché américain, marché nigérian. C'est ça quand même, hein, c'est comme ça. Et là, je, évidemment, par sécurité, parce que aussi mon budget, il est tellement énorme qu'il ne faut pas que je me plante, sinon c'est un accident industriel, c'est comme ça qu'on dit. Donc il y a de tels investissements que je ne dois pas me planter. Et pour ne pas me planter, je vais avoir mécaniquement, structurellement, recours aux bonnes vieilles recettes. aux bonnes vieilles recettes standards établies. Et donc ça, c'est contre-indiqué par rapport à la singularité que nous cherchons dans l'art, sans être des élitistes, encore une fois. Moi, je crois pas que aimer l'art soit élitiste. Je pense que chaque artiste est toujours une élite à lui tout seul. Sinon, on le reconnaîtrait pas. Il est une exception, et c'est bien pour ça que nous l'admirons. Van Gogh arrive, tiens, personne n'a jamais peint comme ça. Nous le mettons en exception du tout venant des peintres. Bah c'est ça, notre vie esthétique, il faut l'admettre. Je ne vois rien de particulièrement aristocratique dans cette conception, quoi. En revanche, le goût pour l'art peut être tout à fait planétaire, massif. Moi, je crois que tout le monde a en lui une propension, en tout cas une capacité esthétique, une sensibilité esthétique qui est parfois un peu enfouie par nos vies de merde. Mais je pense que tout le monde peut accéder à l'art, ça j'en suis absolument convaincu. Tout le monde a une sensibilité, et donc qui peut assez facilement se transformer en sensibilité esthétique. Donc voilà, il faut bien remettre les choses. Alors après, il arrive, miraculeusement, ou en tout cas par une espèce de dérogation à la structure, que même un art qui vise la planète, je prends toujours l'exemple du cinéma, qui est quand même l'art le plus industriel, produise des films intéressants et singuliers. Ben oui, ça peut arriver, parce que des fois la chaîne de production, elle est tellement vaste que, je sais pas, ça peut fabriquer un objet inédit, ou en tout cas où il y a des éléments inédits dedans. C'est arrivé, je veux dire, il y a quand même une grande tradition du cinéma populaire, dit populaire américain, c'est-à-dire industriel américain, qui a produit des grands films, quoi. Ça arrive. Moi, il y a des grands films d'action. Par exemple, il y a un âge d'or, par exemple, du film d'action américain, les années 80-90, pour moi. Là, il y a une série de films d'action qui vraiment visait la planète entière, parce que l'action étant considérée un peu comme un genre universel. On sait très bien que l'action, ça passe pas par l'intellect, ça passe pas par la parole, ça passe par des bagnoles qui se poursuivent, ou des gens qui rentrent dans qui essaient de conquérir des immeubles, bon, qui escaladent, tout ça. Donc, il y a un langage universel de l'action. Et il y a eu des très grands films d'action dans les années 80-90. Piège de cristal est un grand, grand film d'action. Par exemple, Ennemi d'État est un grand film d'action de Tony Scott. Quelques films de Tony Scott à l'époque. Je pourrais en citer quelques autres. La série des Mémoires dans la peau, Jason Bourne. Les trois premiers, pour moi, sont des grands films. Bon, donc voilà, ça peut arriver. Je pourrais prendre plein d'autres exemples dans l'histoire du cinéma américain, ou peut-être même dans d'autres cinématographies. Ça peut arriver, mais c'est vrai qu'a priori, méfions-nous de ce qui est constitutivement porté à standardiser ses formes. Parce que là où il y a du standard, il peut pas y avoir de singularité esthétique, je me répète, mais voilà.
Du coup, ça, on comprend bien ce que c'est. C'est plutôt l'art majoritaire. Mais du coup, pour comprendre ce que c'est que l'art populaire, c'est juste une stricte asymétrie à ça, ou symétrie à ça, ou c'est autre chose?
Et ben là, c'est l'élément d'Aviron, je dirais, de mon livre, c'est-à-dire ça rame. Pourquoi ça rame? Parce que c'est très compliqué de définir qualitativement, comme je l'ai un petit peu déjà dit, un art populaire, parce que là, on fraye avec des choses avec lesquelles en politique, on serait quand même pas très en harmonie, c'est-à-dire qu'il y aurait une essence du peuple, où il y aurait une espèce de substance populaire, waouh! Alors qu'effectivement, le logiciel de gauche a tendance à dire que le populaire, c'est une place dans les rapports de classe. C'est une fonction, pratiquement. C'est pas une essence. C'est pas une substance. Bon, et en même temps, je dois bien avouer qu'il m'arrive de considérer que quand même, il y a quand même un moment où la position populaire finit par faire substance. Il y a des tempéraments populaires. Il y a des gueules populaires. Voilà, je m'avance dans des trucs bizarres, mais nous avons tous cette expérience-là. Nous sommes dans le métro, nous voyons un mec à une gueule, on dit « bonne gueule de prolo, lui ». Et ça nous arrive, je l'invente pas. Donc moi, j'aime bien être loyal à mes expériences sensibles. Et donc, il y a quelque chose comme ça. Bon, appliqué à la culture, on peut dire, ce que j'essaie de dire un peu quand même, c'est quelles sont les productions esthétiques, ou les genres esthétiques, ou les compartiments esthétiques, dont on peut être à peu près sûr qu'ils sont originés dans une culture populaire, ou en tout cas, dans une situation populaire. Ben oui, c'est une tarte à la crème, mais oui, le rap. Indéniablement. Je veux dire, vraiment, c'est la musique qui a été tout de suite estampillée, qui venait vraiment du ghetto, comme on disait. Ghetto, c'est-à-dire quartier populaire, plutôt périphérique, mais pas seulement, à grosse dominante afro-américaine dans les années 70-80. C'est ça, le rap. Je veux dire, c'est pas autre chose. Avec, en plus, dans la facture même de cet art, il y a un élément populaire fondamental, c'est que c'est vraiment un art pauvre. Ça peut se faire avec rien. Et c'était bien d'ailleurs le grand bénéfice de la chose. Tu pouvais faire du rap avec un mec qui te faisait le rythme avec sa bouche et toi qui rappais avec ce qui est la richesse du pauvre, à savoir sa parole. le pauvre, parfois manque de tout, mais il a toujours sa parole. Et il a notamment la tchatch. Aussi, c'était aussi un truc comme ça. Tu vois, le rap, donc, Antoine Lucas, mais bon, évidemment, le rap a, c'est un peu embourgeoisé depuis, bon. Mais j'ose espérer qu'il y a encore des jeunes gens dans les quartiers populaires qui, à partir de leur situation populaire, à partir de leur corps populaire, bah, je veux dire, voilà, expecteur du rap, quoi. J'espère que ça existe encore. Je suis pas assez au fait de la production de rap pour en juger, mais je suis sûr que oui. Et oui, il y avait ce truc aussi, ça allait avoir avec la tchatch, il y avait des fights, quoi. Tu vois, c'est à qui balancerait la meilleure punchline contre les autres, quoi. Et ça, c'est effectivement, c'est la richesse du pauvre, la tchatch. Ce qu'on voit très bien dans les comédies populaires italiennes, par exemple, le bagou. Parce que là où t'as rien, et puis en plus, faut que tu sois un peu un escroc quand t'es un prolo. Parce que comme la société te donne pas grand-chose, il faut que tu filoutes. Parce que vraiment, les comédies populaires italiennes des années 70, c'est quand même exactement ça. C'est toujours des filous, quoi. C'est des types qui sont moralement parfois un peu limites. C'est pour ça qu'est super. Bon, bref. Et donc, ouais, bah, il semble qu'on peut dire, bon, après, je tente un peu aussi le punk, évidemment, que je connais bien. Oui, moi, je me suis toujours raconté mes faits à l'appui, qu'il y avait quand même une continuité entre la situation populaire anglaise de la fin des années 70 et le punk. Ça a beaucoup été dit, et puis ça se vérifie. Même si tous les groupes de punk connus n'ont pas pour membres des gens qui viennent du prolétariat, c'est pas vrai. Je sais que ça m'a été objecté récemment à propos d'une autre interview. Je sais, je le dis face caméra, je sais que Joe Strummer ne vient pas du prolétariat. Joe Strummer est mon idole depuis 35 ans. Donc je pense que je suis un peu renseigné sur lui. Il arrivait même dans mon jeune temps qu'on dise que je lui ressemblais physiquement, ce qui évidemment me flattait. Hein, je veux dire, donc maintenant ça serait plutôt là les 3-4 fois où on m'a comparé avec quelqu'un là récemment dans la rue, c'était avec Emmanuel Grégoire, le maire de Paris. Voilà, vous venez d'avoir un exemple de ma déchéance. Hein. Je le mec commence Joe Strummer, il finit Emmanuel Grégoire, quoi. C'est un fiasco ma vie, quoi. Voilà, globalement, c'est un bon résumé. Mais oui, donc Joe Strummer était fils de diplomate, je le sais, mais pas mal quand même de groupes punk venaient quand même du prolétariat anglais, avec une certaine situation du prolétariat anglais qui a fait émerger ça. Et par ailleurs, on retrouve à peu près les mêmes attendus technico-formels que le rap, à savoir que oui, le punk était une musique qui pouvait jouer avec pas grand-chose. Déjà, avec un savoir musical relativement limité, c'était pas la peine d'avoir fait le conservatoire 8 ans pour composer du punk rock. Moi, je maintiens que c'est donné à tout le monde de fabriquer une chanson punk, c'est pas donné à tout le monde de fabriquer une bonne chanson punk rock. Donc je maintiens quand même un petit niveau. Mais oui, bien sûr, c'était le fameux truc, il suffit d'avoir un ampli qu'on a plus ou moins caviardé à je sais pas qui, et une guitare électrique, et bam bam bam, trois accords, un chant, un truc. Donc on retrouve, donc il y aurait des petits éléments comme ça qu'on pourrait, moi je pense surtout dans la musique d'ailleurs, ça serait peut-être plus compliqué. Qu'est-ce que ça voudrait dire un cinéma populaire dans ce sens-là? Dans la mesure où pour faire un film, il faut toujours en passer par des financiers. Alors de moins en moins, parce que les moyens d'expression du cinéma se sont démocratisés. Et donc il serait tout à fait possible que des gens issus du quartier populaire fassent leur propre film. D'ailleurs, ça arrive. Après, pour qu'ils arrivent jusqu'à nous, c'est encore un autre problème, quoi. Mais donc voilà, c'est un chantier que je soumets à tous mes lecteurs et lectrices, quoi. Demandez-vous ce que pourrait être un art populaire.
Est-ce que le DOM 81, c'est des trucs comme ça, ça s'en rapproche pas? Plus avec moi ou mieux avec moi?
C'est sûr qu'un truc comme le dogme, ou peut-être plus généralement un cinéma qui affirme qu'on va se passer d'un certain nombre de moyens ou d'artifices cinématographiques qui demandent un tout petit peu d'argent, d'ingénierie, d'outillage, ça irait dans le sens d'un appauvrissement des moyens et donc un truc que tout le monde pourrait faire. Après, dans le cas du dogme, il se trouve que les gens qui l'ont lancé étaient déjà très connus. Tu vois, Lars von Trier et Vinterberg à l'époque avaient déjà eu des succès. Donc ça faisait pas les gens de 20 ans, tu vois, qui émergent d'un quartier populaire et qui disent bah nous on va faire avec les moyens du bord, donc on va pas éclairer, on va pas ceci cela. Je pense que c'était plus un manifeste esthétique qu'un manifeste, je dirais, social. Mais en tout cas, après moi je dirais que ce qui serait l'art populaire en ce moment dans le cinéma, mais je le dis vraiment parce que tu viens de m'y faire penser, ce serait le documentaire. Parce que le documentaire n'a pas besoin d'acteurs, d'actrices à payer. Tu peux faire un grand documentaire du moment que tu trouves des machins de réalité. Le réel est gratuit, tu vois. Tu peux filmer une montagne. La montagne, elle te fera pas payer, jusqu'à preuve du contraire. Et ou alors des gens, des vrais gens, comme on dit, qui vont pas se faire payer. Donc oui, le documentaire, qui est d'ailleurs souvent factuellement un art pauvre. Moi, j'ai fait un documentaire, le dernier que j'ai fait en mon nom, qui s'appelait Autonome, il y a 4-5 ans. Je l'ai fait pour en tout, allez, 25 000 euros. Bon, voilà, ça paraît beaucoup d'ailleurs, mais en fait, c'est rikiki. Hein. J'espère que tout le monde est au courant qu'un film, en général, ça se fait plutôt avec 500 000, 1 million pour les pauvres, 400 millions pour nos amis de Marvel, quoi.
En tout cas, le fait d'avoir à faire avec peu, lié aux contraintes matérielles d'être de classe populaire, ça pourrait être une première piste pour définir ce qu'est la culture, l'art populaire. Et justement, dans du mépris, vous rappelez bien que justement cette singularité du rap, par exemple, à partir du moment où ça marche, on le standardise pour en faire, pour prospérer économiquement là-dessus, et on le noie dans la culture de masse, justement. On comprend en quoi la culture de masse liée au marché actuel est délétère à l'art. Pour autant, l'art a toujours dû composer avec le marché pour survivre, et le marché, dans toutes les formes successives qu'il a pu prendre, le malmène d'une manière ou d'une autre. Pour prendre un exemple un peu scolaire, au 19e, probablement que le marché bourgeois restreignait l'art à quelque chose à une fonction de distinction sociale. Et donc l'artiste était restreint à des codes un peu élitistes, de bon goût, etc. Donc, quel que soit le marché, il malmène l'art d'une manière ou d'une autre. Vous semblez, dans le livre, ou tout du moins, avoir une dent contre le marché actuel qui prospère sur les cultures de masse, qui noie l'esthétique dans la culture de masse, mais finalement, est-ce qu'il est plus délétère à l'art que ses formes précédentes?
C'est une très bonne question sur laquelle je ne peux avoir que des intuitions, parce que c'est tellement vaste, et ça mériterait tellement de minutie dans une analyse un peu, des macro-analyses un peu, hein, parce qu'on part quand même d'un champ d'investigation quand même très très large. Moi, les petites intuitions que je propose dans le bouquin, bien sûr que l'art n'a jamais été dissociable du marché. Depuis la peinture hollandaise, enfin je veux dire, y compris, pour remonter à un peu loin, mais on pourrait remonter encore antérieurement, l'art, les beaux-arts étaient financés par des princes, des mécènes, des machins, et donc forcément, immédiatement, il y avait un acte d'argent. On lit souvent, je ne sais pas jusqu'à quel point les historiens de l'art continuent à accréditer cette thèse, mais il me semble qu'elle est très cohérente. On lit souvent la grande peinture hollandaise du XVIIe a une prospérité des marchands hollandais grâce à à l'extension de leur hégémonie maritime notamment. Donc beaucoup de rentrées d'argent. Hein, on va un peu piller aussi évidemment les terres ultramarines. On en ramène des biens, on fait un profit dingue, donc ça enrichit tout un tas de marchands. Donc il y a toute une bourgeoisie hollandaise qui se développe et qui peut donner de l'argent à des peintres comme Rembrandt et autres ou des Vermeer ou autres de produire des tableaux. Donc en fait, oui, immédiatement un certain état du marché a toujours été bon. Jusqu'à quel point, d'ailleurs, dans le cas des peintres hollandais, la commande affectait l'exercice même de l'art, c'est une question que je laisse aux historiens de l'art, mais je pense que c'est certain, évidemment, qu'ils étaient obligés d'opérer dans un certain nombre de codes et d'attentes de leurs commanditaires. Bon, il se trouve que Rembrandt s'en est quand même bien sorti. Donc il y avait moyen de mettre la patte. La question qui se poserait maintenant, c'est effectivement, par rapport à ce vieux compagnonnage entre le marché et l'art, bon, est-ce que il y a encore possibilité que de l'art s'immisce dans le marché, hein? Et est-ce que, alors moi, mon intuition, c'est que quand même, le marché a pris quand même de plus en plus de place. Et en fait, beaucoup plus sûrement, ça ce dont je suis assez sûr, c'est que précisément, il y avait un temps où les gens qui avaient de l'argent avaient une disponibilité à l'art, à la chose esthétique. Qui donc pouvait faire que lorsqu'ils finançaient l'art, soit directement, soit tout simplement en achetant les productions, en achetant tel livre, en allant voir tel film, ou en achetant tel tableau pour prendre une dépense un peu plus conséquente, mais comme ces gens étaient disponibles à la chose esthétique, disons-le en fait plus bêtement, ils avaient du goût. En tout cas, ils avaient un goût. Qui d'ailleurs pouvait être considéré comme un goût distinctif, comme un goût bourgeois, dont s'est beaucoup moqué Proust à travers Madame Verdurin. Le goût bourgeois distinctif, avec comme ça on peut briller dans les dîners, etc. Donc Proust s'est beaucoup moqué de Madame Verdurin et ça donne des pages géniales. Mais moi je dis un moment dans le texte, rendez-moi Madame Verdurin. Et rendez-moi Proust aussi, par la même occasion, ce serait pas mal, ça ferait d'une pierre deux coups. Non, parce que quand je vois ce qu'exprime Madame Verdurin dans Proust, dans les pages que Proust lui consacre, j'ai oublié le nom du modèle, mais il y avait évidemment un modèle pour Proust, quand même, il faut quand même avoir un certain raffinement esthétique pour déplorer que Wagner, maintenant, en passe par l'italianité, il faut lire un truc comme ça que je cite dans le livre, Ça prouve que d'abord, un, on connaît un peu Wagner, deux, on sait un peu situer ce qu'il sait faire. Enfin, super. Moi, j'adorerais que la bourgeoisie en soit encore là de raffinement esthétique, parce que ça permettrait à des Wagner contemporains d'exister. Voilà. Ce que je décris, c'est une déculturation de la bourgeoisie. Voilà. Alors, qui tient pas du tout. Alors, comment dire, qui tient pas un phénomène tombé du ciel, genre ils sont devenus bêtes. Non. Je reste marxiste conséquent que je suis. Je pense qu'il y a une production de la bêtise bourgeoise. Et au titre de quoi, je pense que du mépris, d'une certaine manière, est un peu histoire de ta bêtise qui continue par un autre angle. Il y a un abêtissement de la bourgeoisie qui tient pas au fait que leurs cerveaux se sont abêtis, qui tient au fait que je pense que la chose de l'argent, leur composante commerciale, parce que ce qui constitue le bourgeois, c'est quand même le commerce, a pris de plus en plus de place dans leur vie. Et je pense, alors je prends des exemples, je dis, il me semble que, par exemple, une certaine bourgeoisie catholique, quoi qu'on en pense, de quoi qu'elle ait été la complice au long de l'histoire, il y avait quand même un moment où le dimanche on allait à la messe, quoi. Donc on était quand même un peu disponible à autre chose qu'à faire des comptes. Alors on pourrait dire peut-être qu'on allait à la messe en somnolant, on allait à la messe hypocritement parce qu'il était de bon ton d'aller à la messe et de s'y faire voir, je veux bien, mais on y était. Et mine de rien, on entendait quand même de l'orgue. Et parfois c'était du bac. Et puis parfois il y avait un sermon du prêtre qui disait quand même autre chose que en ce moment il me semble que le marché est plutôt en Bulgarie parce que là-bas il y a des extractions. Bon, on avait le cerveau disponible, comme dirait l'autre, à autre chose qu'à la comptabilité et à la maximisation de nos profits. Eh bien, je crois que pour tout un tas de faits matériels sur lesquels je ne vais pas épiloguer maintenant, il me semble que la bourgeoisie a été totalement absorbée par le commerce. Et par, disons en tout cas, les affects commerciaux, les calculs commerciaux. C'est bien ça qui arrive. Donc, rendez-moi mes bourgeois, dis-je un moment, évidemment, de façon un peu drôlatique dans le livre, mais drôlatique, mais pas. Je veux dire, il nous manque. Et donc, du coup, il y a eu effectivement une fusion, je pense, entre... C'est aussi à ce titre-là qu'il n'y a plus de goût légitime, distinctif de la bourgeoisie. Puisque même quand ils s'emparent de la culture... quand ils sont eux-mêmes des producteurs ou des marchands de culture, ce qui est quand même souvent le cas, c'est pas des gens qui vont se dire « Ah, moi, j'aimerais bien produire... » Je prends un exemple d'un producteur qui était un peu connu dans les années 70, qui venait d'une grande famille bourgeoise et qui était très fortuné, qui était un héritier. Eh ben lui, il produisait Robert Bresson. À un moment, hop, il donne de l'argent à Bresson pour faire Lancelot du Lac, qui est un drôle de film, magnifique comme tout Bresson, mais pas très vendeur, voyez-le. Eh ben voilà, c'était possible encore que, par goût esthétique, des bourgeois, des propriétaires, trouvent gratifiant d'aller produire un Bresson, comme ils trouvaient peut-être gratifiant d'aller demander à Rembrandt un tableau. Je pense que maintenant, d'ailleurs, je pense que le fils de ce producteur, hein, je le dis dans le livre, bon, pour moi, voilà, c'est un indicateur de la dégénérescence, ou en tout cas du déclin des choses, le fils de ce producteur qui produisait Bresson, lui, il produit plutôt maintenant les Trois Mousquetaires ou des choses comme ça. J'ai rien contre, d'ailleurs, c'est plutôt des films plutôt bien facturés, enfin, le niveau baisse. Moi, je dirais le niveau de la bourgeoisie baisse, quoi. Mais encore une fois, parce que peut-être qu'il n'y a plus rien qui est un dehors à ces calculs commerciaux. Et je veux pas, encore une fois, surestimer la bourgeoisie d'avant, hein. Je sais qu'elle était déjà très requise par ses calculs commerciaux, par définition. Mais il me semble quand même... En fait, c'est des trucs cons, je suis trop long, mais... Même dans une journée, on sait depuis longtemps que l'argent ne dort jamais. Mais le bourgeois qui fait de l'argent pouvait dormir. Il pouvait ne pas y penser. Il y avait plus de moments dans sa journée où il ne pensait pas à ça. Maintenant, il a des outils technologiques qu'il a dans sa poche ou ailleurs... qui font qu'il est, même à minuit, il est encore en train d'y penser. Même, enfin, je veux dire, il est devenu un fait commercial intégral. Alors, on l'est tous un peu, hein. Parce qu'avec nos téléphones et machins, à minuit, on est en train de liker des trucs ou de poster une vidéo dont on espère qu'elle sera likée. Donc, nous aussi, on est tous un peu devenus des petits commerçants. Et peut-être que nous-mêmes, du coup, ne sommes pas aussi disponibles à l'art qu'on devrait. Mais là, je parle que de la classe dominante. Voilà, c'est tout un tas d'éléments comme ça, techno-économiques, qui font que, je vais vite, hein, bien sûr, parce que c'est un phénomène qui mériterait une analyse de 2000 pages, quoi. Mais moi, c'est un peu ça, mes essais. Moi, je lance des hypothèses, et puis voilà, que chacun les travaille comme il veut.
Mais c'est ce qui distingue finalement le bourgeois de l'aristocrate, la capacité au désœuvrement.
Tout à fait, mais encore une fois, il me semble que même, évidemment, les aristocrates ont toujours méprisé les bourgeois pour ça. La bourgeoisie était une classe laborieuse pour les aristocrates, qui eux étaient des rentiers, qui foutaient rien, et qui se piquaient de ne rien faire, bien sûr, parce qu'ils avaient le sang bleu, donc ils étaient légitimes à ne rien faire. Bon, et alors les bourgeois arrivent, ces espèces d'affairistes commerçants, là, je veux dire, ils sont toujours dans la boutique. Et donc oui, grand mépris des aristocrates pour la bourgeoisie. Il n'en reste pas moins vrai qu'à un moment, la bourgeoisie émerge, elle s'enrichit, et en plus elle-même vise l'aristocratie, hein, elle veut devenir elle-même une aristocratie, parfois même elle achète des particules, et elle veut s'allier aussi, faire des alliances avec l'aristocratie, c'est-à-dire toute la bourgeoisie du 19e française, c'est on va chercher des aristos, et par mariage on va faire des alliances et on va cumuler les fortunes, à la fois la rente aristocratique et la dynamique affairiste de la bourgeoisie. Bon, mais il me semble quand même que malgré tout, cette bourgeoisie-là, oui, pour les raisons que j'ai dites, oui, comment dire, le bourgeois de province, par exemple, allait au théâtre le vendredi, voilà, il allait au théâtre. Alors on pourrait dire il y allait encore une fois pour maintenir son aura sociale dans la petite communauté où il évoluait. Oui, mais il y allait, quoi, il y allait. Et puis des fois c'était Bérénice, et puis des fois c'était une pièce d'Ibsen, ou je sais pas, et il la suivait, plus ou moins. Est-ce que le bourgeois va encore au théâtre ? Très marginalement, d'après les chiffres de théâtre. Est-ce que le bourgeois... Des fois, on imite les goûts légitimes bourgeois, genre en cinéma, ça donnerait quoi ? Oui, alors voilà, les... non mais les bourgeois, tu sais, genre ils vont voir des Bergman. J'entends encore des trucs comme ça. J'entends encore des gens qui parodient les cinéphiles en les faisant parler comme des bourgeois de salon et qui se retirent, mais j'adore le dernier, j'ai vu, écoute, le dernier Hamaguchi, de ciné japonais... Non, les gens qui aiment Hamaguchi, dont je suis, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas genre, non, j'ai adoré le dernier Hamaguchi, c'est des cinéphiles désargentés, précaires, des critiques de cinéma qui gagnent pas une thune, qui rament, et puis quelques illuminés de mon espèce. Et ouais, bon, bah, regarde, de Hamaguchi, on en parle parce qu'on aime ça, quoi. Voilà, mais c'est pas le salon de Madame de Sévigné, je sais pas si Madame de Sévigné avait un salon d'ailleurs. Madame de Stahl, je pense. Je confonds tous les salons. c'est pas le même siècle. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Fut un temps où la bourgeoisie... Bourdieu parle d'une notion dans... Parce que j'établis la péremption de certains aspects de Bourdieu. Je pense qu'il reste très pertinent sur plein de trucs. Il parle de la bonne volonté culturelle de la petite bourgeoisie ou de la classe moyenne. La bonne volonté culturelle, c'était... J'ai identifié qu'il y avait un goût bourgeois... Je suis fasciné par ce goût bourgeois. Waouh, c'est des gens, ils ont du goût. Et moi, j'aimerais bien être comme eux. Et donc, la bonne volonté culturelle, c'est, j'écoute Michel Sardou, mais en fait, non, j'ai écouté sur France Inter qu'en fait, on écoutait plutôt Georges Brassens. Je vais essayer d'écouter Georges Brassens. Je vais essayer de me hisser. C'est ça qu'il appelle la bonne volonté culturelle. Mais ça veut dire que d'abord, on a identifié qu'il y avait un goût légitime auquel on aspire, qui serait distingué, et qu'on fasse donc le travail d'y aller. Et ça, c'est fini. Vous connaissez beaucoup de gens qui se disent « Oh là là, moi je sens bien que la grande musique, elle est là, bon, bah, donc du coup je vais écouter Mozart, parce que bon, jusqu'ici j'écoutais plutôt de Joule. » Mais voilà, c'est ça que dont j'essaie de rendre compte dans le livre. Moi je ne sens plus de honte culturelle des gens qui se transforment en bonne volonté culturelle, c'est-à-dire d'adhérer, enfin de contracter le goût des autres ou le goût supérieur de la bourgeoisie, ça n'existe plus.
Et on en arrive à la question la plus importante entre toutes. Mon mépris n'est pas de classe. S'il embrasse uniment les classes basses et hautes, immergées dans le bain indistinct de la culture marchandisée, mon mépris culturel ne peut être de classe. Mon mépris culturel n'est pas culturel, on vient de le dire. Ou, depuis quel grand art légitimé par qui ? On fleure cette question depuis un petit peu le début de cette partie. Vous effleurez la question dans le livre sans jamais l'aborder frontalement. Comme c'est une question importante, je vais me permettre de tutoyer pour marquer le coup.
Avec plaisir. Vas-y, je t'attends.
Qu'est-ce qui fait que tu te sens légitime de penser qu'un champ esthétique serait supérieur à un autre, mais avec des critères relativement objectifs ? Qu'est-ce qui légitimement va te permettre objectivement de dire que peut-être la littérature vaudrait mieux qu'un manga, par exemple ?
Alors là, c'est vrai que... On arrive à une question qui mériterait des développements, je dirais, de 12 jours. Donc, je vais quand même essayer, non pas d'être très court, mais d'être moins long que ce qu'il faudrait pour vraiment traiter la question. Mais d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que ces questions-là, qui sont des questions fondamentales, dans quelle mesure est-ce que je pourrais décréter qu'un art est supérieur à un autre, ou qu'au sein d'un même art, une œuvre est supérieure à une autre ? C'est la grande question du commentaire sur l'art depuis que l'art existe. Je commencerai par dire une chose, c'est que moi, en général, je pense qu'on ne traite bien la chose esthétique, la chose de l'art, que dans la situation d'une œuvre. Je vais m'expliquer pourquoi, moi, ce qui me paraît le meilleur dispositif de réflexion sur l'art, c'est la critique d'art, donc la critique de cinéma, littéraire ou critique de pictural, parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus dans des généralités, nous allons rejouer la question que tu poses, qui est une question générale, une question de philosophie esthétique pratiquement, mais on va la rejouer dans une œuvre donnée. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de réponse générique à ta question, il y a cette question reconduite à l'infini d'œuvre en œuvre par le travail critique. Voilà. Et moi, mon travail critique, c'est mes sorties sur l'art, enfin, les modalités de l'expression sur l'art que je peux avoir, c'est toujours à travers des œuvres, toujours, pratiquement toujours. Même dans Comme une mule, où j'essayais de penser l'art de façon un peu plus générique, c'était constamment adossé à des œuvres. Hein. Je n'arrêtais pas de convoquer tel film, tel livre, tel tableau, telle pièce musicale, etc. Je crois que, bon, ça c'est un peu chose à dire, parce que il n'y a pas de réponse à ça, donc en fait on va reconduire à chaque fois. Et qu'est-ce que fait le critique en fait? Pour moi, le travail du critique, c'est deux choses, essayer de rendre compte de son goût. Il a aimé ce film, il l'a moins aimé. Et ce qu'il va essayer de faire de critique, c'est d'objectiver sa subjectivité. Il a évidemment le sentiment subjectif qu'il vient de voir un grand film. Mais plutôt que de dire « Ah, c'est vraiment un grand film, je te le recommande », le critique va essayer, va partir dans cette espèce de quête sans fin et sans aboutissement véritablement satisfaisant d'objectiver son sentiment subjectif. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de convoquer le matériau du film. Il va dire « Ben voilà, telle scène, il se passe ça, et ce que je trouve très fort dans cette scène, c'est contrairement à ce qu'on aurait pu attendre ou ce qu'aurait pu faire à Sayas », c'est toujours un très très bon repoussoir. Toutes les critiques de cinéma positif devraient être ça. Regardez comme Assayas ne fait pas pareil. J'aime bien dégommer Assayas, tout le monde s'en fout d'ailleurs. Bon. Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Donc, et là, eh ben, je ne vais pas décréter... En fait, je suis en train de dire pourquoi en fait, ce cinéaste me paraît plus fort que tel autre. Ben, c'est parce que lui, il s'y prend comme ça, alors que l'autre fait ça. Et évidemment, c'est compliqué. C'est vraiment un travail très compliqué, la critique. Mais c'est pour ça que ça le rend très passionnant, ce travail infini. C'est-à-dire, la critique, ça... Donc, je tenais à dire ça, parce que c'est très important. Alors après, est-ce que tu peux te donner des critères objectifs? Est-ce qu'au bout du compte, on peut dégager les critères objectifs? Évidemment pas, mais moi, ceux qui me suivent savent que, en fait, c'est pas des critères objectifs que je vais proposer pour hiérarchiser en art. C'est des critères subjectifs. Et en gros, si je voulais un peu résumer mon truc, mais ben, je vais vraiment me caricaturer moi-même, il est entendu que ce que je postule et ce que postule mon corps et à partir de quoi se constitue tout mon travail critique, c'est la conviction, la sensation, la certitude corporelle que la vie est beaucoup plus vaste que l'art. Voilà. Et que donc, l'art a toujours intérêt à s'indexer à la vie s'il veut s'amplifier et se donner une vastitude. Voilà. Là où d'autres considéreraient, par exemple, je donne un critère parmi d'autres, mais là où, et là, il y a une guerre du goût, hein, il y a une guerre esthétique, d'autres considéreraient que, ma foi, la vie, c'est toujours un peu pauvre, c'est toujours un peu banal, il s'y passe jamais grand-chose. C'est la routine, la vie est triste, la vie est bon. Et donc l'art aura tout intérêt, au contraire, à être une bulle en dehors de la vie, construire une espèce de bulle où tout soit possible, où ce que la vie ne rend pas possible, on va le rendre possible par l'art en créant des artifices, des imaginations, etc. Et là, du coup, l'art sera grand. Bon, je schématise à mort, mais ça, voilà une compétition esthétique. Mais en fait, c'est pas une guerre objective. C'est des trucs de tempérament. Peut-être que les gens qui considèrent que la vie est petite, elle est tout étriquée, et que donc on gagne à vraiment fuir la vie pour construire un grand art, c'est peut-être des gens qui sont fâchés avec la vie. Ah, ils sont fâchés avec la vie, pourquoi? Il y a plein de raisons à ça, hein. Nietzsche nous en parle. Hein. Pourquoi il y a du ressentiment? Pourquoi on est fâché avec la vie? Moi, je suis pas fâché avec la vie en tant que vie. Bon, bah donc du coup, j'ai tendance à m'émerveiller de la vie en tant que vie, de sa plénitude, de sa richesse infinie, de son foisonnement, et que donc à ce titre-là, oui, je rejoue d'œuvre en œuvre cette idée que dès que je sens une espèce de claustration d'une œuvre, dès que je sens qu'elle est un peu dans le vase clos d'elle-même, ben très vite j'y vois une espèce de confinement de l'œuvre qui s'est coupée des forces vitales. Et qui donc, du coup, s'y raccornit. Bon, vraiment, je fais l'effort hein, de faire une synthèse, mais c'est Évidemment, heureusement que l'art est plus vaste que ce que je viens de dire. Mais voilà, voilà ce que je peux proposer, moi. Mais c'est des propositions. Et c'est ça qui est beau avec l'esthétique, c'est qu'en fait, c'est un dialogue infini qui, encore une fois, va se rejouer. Il n'y a pas de thèse. Donc, après, pour revenir peut-être un peu plus sur Terre, tu disais, la littérature, c'est mieux que les mangas. Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ce genre de décret. Moi, jamais tu m'entendras dire un truc pareil. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'investis plus puissamment la littérature que les mangas, que je suis davantage traversé par la puissance de la littérature que par la puissance des mangas. Mais il se trouve que j'y connais pas grand chose en manga, peut-être une histoire de génération, peut-être une histoire de sociologie, je n'en sais rien, mais jamais tu m'entendras dire, non, il y a quand même des arts supérieurs à d'autres, parce que le manga, quand même, c'est quand même pas grand chose, alors que quand même, Proust et Flaubert, on n'en a rien à foutre de ça. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais le truc inverse n'a aucun intérêt non plus, hein, de dire, non, mais tous les arts se valent. Je veux dire, faut respecter tout le monde. En fait, le manga, non, mais pourquoi pas? C'est ta vie. Non, on s'en fout aussi. Pour moi, c'est du vent. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est un fan de manga qui m'en parle, quoi. Qui me dise pourquoi ce manga-là, un truc qui l'a exalté, a augmenté sa vie, a l'a euphorisé. Là, ouais, et si, avec d'autres termes que, tiens, c'est vraiment de la balle, c'est vraiment génial, non mais c'est fascinant, c'est vraiment le plus beau manga de tous les temps, ça, je m'en branle. Mais s'il fait l'effort de, vraiment, de décomposer sa sensibilité, de la disséquer, de voir comment, pourquoi c'est si fort pour lui, mais là, tout va devenir intéressant. Il n'y a pas des arts plus intéressants que d'autres, il y a des façons plus ou moins intéressante, un, d'investir l'art, deux, d'en parler. Et je pense qu'il faut, après, il faut se dire les choses un peu calmement. Il me semble qu'il y a des gens qui ont parfois des pratiques de l'art que moi, je trouve désinvestis. Voilà. Ils regardent des films, et en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Enfin, ça ne les traverse pas. C'est pas grave, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais, regarde un film, tu leur dis, ah ouais, t'as aimé ce film? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. Mais, pourquoi? Non, mais vite fait, quoi. Faut, tu te regardes bien, quoi. Tu passes un bon moment. Bon, ok, cool. Mais bon, on voit bien ils sont pas habités par le sentiment qu'il puisse se passer quelque chose d'intense devant une œuvre, quoi. Bon, et encore une fois, on a le droit de consommer de l'art comme ça. Moi, je m'en fous, hein. Mais je pense qu'en fait, le vrai clivage serait pas tant entre les gens qui adorent la littérature et les gens qui aiment le manga. Le vrai clivage, il serait interne à tous les arts, interne à tous les genres, entre des degrés d'intensité, d'investissement dans la chose esthétique. Voilà, c'est plus ça, le truc, en fait. Et là-dessus, ma foi, tu peux trouver... Moi, c'est toujours très émouvant de rencontrer quelqu'un qui, a priori, n'a pas de code scolaire, n'a aucun diplôme, n'a aucune légitimité à parler d'art, mais qui a été percuté par un truc. Moi, il n'y a rien qui me bouleverse plus que ça, en fait. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui n'ont pas une grosse pratique du cinoche, mais ils disent, tu vois, ce film-là, ça m'a bouleversé. Je l'ai vu 10 fois, c'est fort pour moi. Ça, je trouve ça toujours très dingue. Vraiment, ça me plaît. Et quelqu'un même qui me dirait, je me fous un peu de Mélissa d'Acosta dans le film, dans le livre, évidemment. C'est normal, moi, je suis le bouffon du roi, moi. C'est elle, la reine. Donc, je fais mon travail de bouffon de base en titillant un peu Mélissa d'Acosta, qui est la plus vendeuse des écrivaines contemporaines françaises. Donc j'ai raison de la taquiner, je vois ça va, quoi. Il faut taquiner les puissants. Mais si quelqu'un me dit lire Mélissa d'Acosta, ça me rend heureux ou heureuse, et c'est fort, ben ça me va. Voilà. Moi c'est là que je mets mon égalitarisme. Je ne mets pas dans d'autres choses où je ferais semblant de dire que toutes les pratiques sont bien, parce que tout le monde est sympa. Non, tout le monde n'est pas sympa. Les gens qui pratiquent l'art, moi je trouve qu'ils gâche l'art, il le déconsidère, il le méprise d'une certaine manière, tu vois.
Bah c'est une bonne façon d'aborder la question, parce qu'effectivement trouver des critères un peu objectifs pour légitimer l'art, c'est compliqué. Mais si déjà bon, on considère que toi il y a un corpus d'œuvres que tu sais intense, tu vois bien qu'il y a un certain public qui y adhère. Tu vois bien qu'il y a quelque part, de ton point de vue, une petite aristocratie, on va dire, de l'art qui est encore très au fait de l'art, qui s'y intéresse et qui est vraiment encore qui est percuté par l'art. Mais du coup, est-ce que tu arrives à la situer socialement? Est-ce que tu arrives à avoir des points communs? Ou alors c'est comme tu le dis dans le livre, les consommateurs de jazz qui en fait sont un échantillon très hétéroclite où en fait on ne voit rien d'autre que le jazz qui les relie. Ça serait une bonne solution peut-être pour essayer de voir s'il y a encore moyen de trouver une instance de légitimité en partant de ce point-là?
C'est une très bonne question, mais là-dessus, comme d'habitude, je ne peux arriver que, enfin, je ne peux avancer que empiriquement, mais pragmatiquement. Je note un moment, effectivement, dans le livre que, en fait, ça m'arrive assez souvent. Ça m'est arrivé quand même un nombre significatif de fois de me retrouver dans un taxi, parce qu'il m'arrive de prendre le taxi, et que le chauffeur est en train d'écouter TSF. C'est ça la chaîne de jazz, hein. J'ai un doute d'un seul coup, ça s'appelle comme ça, je sais plus. Je suis pas très fan de jazz, donc j'écoute pas cette chaîne, mais voilà. Et ben voilà. Et effectivement, je me dis que la communauté des gens mondiales, des gens qui aiment le jazz, qui pourrait être considéré comme une musique un peu élitiste maintenant, je pense que c'est beaucoup plus bigarré que ça, sociologiquement. Et je pense qu'en fait, plus généralement, les amoureux de l'art ou les gens qui investissent intensément l'art, hein, je préfère le dire comme ça, bah, ça peut être plein de gens différents. Ça peut être des prolos, ça peut être des bourgeois, ça peut être des classes moyennes, ça peut être des étudiants, des vieux, des jeunes. Ça dépend quoi? Ça dépend ce qu'ils investissent. Moi, je pense que la musique a quand même cette espèce de capacité à produire des intensités pour beaucoup de gens très différents et sans forcément avoir la formation ou avoir des cadres culturels qui permettent de... C'est quand même la grande magie de la musique. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais tu vois, on parlait du fait de la compatibilité entre un art de masse et l'art. Là, je dirais que la pop musique nous apporte une preuve évidente qu'ils peuvent être parfois conjoints. Je veux dire, il y a des grands titres qui ont fait danser la planète entière. Enfin, il y a des titres de musique, de pop musique au sens large, la musique populaire, qui ont fait danser la planète entière et qui sont super. Qui sont super. Moi, j'adore ça. Enfin, il y a plein de tubes, comme on dit. Voilà, tubes. Il y a des tubes qui sont quand même géniaux, qui rendent heureux, quoi. Qui me rendent heureux quand je les écoute. Bon, donc la musique quand même arrive à des choses. Je finis hein, sur la musique. Ouais. La musique, c'est Dieu, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est Dieu, et c'est même le Dieu. Elle permet des conjonctions sociales ou des harmonies ou des communions sociales que ne permet vraiment pas le corps social, quoi. Il se passe dans la musique des choses tout à fait étonnantes, quoi. Alors qu'effectivement, dans les goûts esthétiques, et donc je viens à ta question, oui, il est bien vrai quand même que les gens qui investissent intensément l'art, le réfléchissent, le pensent, pour qui il est un sujet, qu'ils essaient de reconduire d'œuvre en œuvre, oh, c'est quand même pas tout le monde. Évidemment que ça crée une espèce de micro-aristocratie, mais je m'empresse de dire que ce n'est pas une aristocratie économique. Pas du tout. C'est quand même bien de le rappeler. Et donc je prends un exemple dans le livre, c'est tel jour à l'archipel à Strasbourg-Saint-Denis, dans un cinéma qui passe les films 2 mois après leur exploitation ou 3 mois, 8 € l'entrée, etc. Bah oui, documentaire de Wang Bing, documentaire chinois, nous sommes 8 dans la salle. Et il y a 5 étudiants qui sont là pour le tarif préférentiel, sans doute des étudiants en cinéma, je pense. Mais bon, les études de cinéma, hein, c'est quand même pas une garantie de prospérité. C'est plutôt des études dépotoirs, presque maintenant, hein, fac de cinéma. Et puis, à moi, bah voilà, parce que, voilà, j'ai une circulation sociale qui me permet d'être là cet après-midi et de regarder un film de Wong Bing qui fait 4 heures. Et puis, il y avait ce que j'avais identifié comme deux profs à la retraite. Je trouvais qu'ils ressemblaient à mes parents quand ils se baladaient tous les deux avec leur sac à dos. Et donc voilà, donc on est des happy few qui regardons un documentaire chinois. Enfin vraiment, on est des happy few qui ont une sale gueule, quoi. On paye pas de mine, hein. C'est plutôt des gueux. Donc oui, je pense qu'il y a toujours un effet de distinction dans le fait d'avoir une vie esthétique un peu riche, mais c'est pas une distinction sociale. Et encore une fois, j'y insiste, elle n'est entourée d'aucun prestige, d'aucun prestige. Personne. Je connais personne dans le prolétariat ou dans les classes moyennes qui se disent moi vraiment Wang Bing, je sais que ça existe, c'est un documentariste chinois, moi j'ai jamais vu de film de lui, ça a l'air vachement compliqué et vachement classe d'aimer ce mec et j'ai honte de pas l'aimer et j'aimerais bien en voir, en même temps j'ai l'impression que c'est trop compliqué pour moi. C'est ça la honte culturelle, mais elle n'existe plus. D'abord les gens sont pas au courant que Wang Bing existe, et quand bien même ils seraient au courant, ils auraient même, je pense, un début de mépris pour dire « Non mais les gens, ils ont que ça à foutre, là. Les gens, les 8, là, qui sont dans la salle, ils ont que ça à foutre d'aller voir un documentaire dans les ateliers textiles de je ne sais plus quelle région chinoise. » Ils auraient presque pitié, moi, je pense. Hein. Je dirais « D'accord. Ces gens vont pas bien. » Donc c'est ça aussi que j'essaie de décrire, c'est que il me semble qu'il n'y a plus grand monde qui se sent impressionné par un goût qui l'appellerait légitime. Après, je finis juste sur les happy few ou sur l'aristocratie. Tu prends le punk, très intéressant. Parce que bon, voilà.
J'ai pris le jazz comme exemple.
Mais je. C'était une expression, tu sais, pour dire. Prenons par exemple le punk. Toujours le meilleur exemple du monde. Non, mais moi, je connais. Moi, j'ai grandi en permanence dès lors que j'ai adoré le punk et que j'ai su que ce serait quelque chose de fort dans ma vie, bah, j'ai dû composer avec le mépris qu'est Spielberg. Musique est quand même très méprisée. Pas par tout le monde, mais quand même. Combien de fois j'ai dû entendre, c'est du bruit, c'est trois accords, c'est pas grand-chose. Oui, enfin bon, d'accord, c'est pas facile. Enfin, tu veux pas baisser? Oui, enfin, c'est toujours pareil, quoi. C'est pas très inventif. Il a fallu que je me coltine ça, quand même, à 15 ans, à 18 ans, à 25 ans. Même quand j'en faisais moi-même avec les Zabriskie Point, bon, il y avait des gens qui nous aimaient bien, puis des fois, des gens extérieurs disaient « Ah, c'est ça que vous faites, c'est punk, ouais. Vous n'avez rien de trouvé de mieux à faire, vous, les étudiants en lettres, que faire du punk rock ?» Donc en fait, beaucoup de gens disaient « Vous êtes un peu déclassé, là, vous qui parlez de Flaubert et de Beckett toute la journée, vous faites du punk rock ?» Mais c'est quoi ce truc? Et ben moi, j'ai beaucoup milité pour dire que cette musique était puissante, qu'elle avait une puissance inégalable à mes yeux, ce que je crois encore 30 ans plus tard. Mais j'ai dû essuyer ça. Et donc quand même, j'ai retourné ça en distinction. Évidemment que je n'ai eu de cesse pour contrer le mépris que certains vouaient à la musique punk, de dire tu peux pas comprendre. En fait, c'est pas... Si tu méprises le punk, c'est pas parce que tu as des goûts musicaux très raffinés, à l'aune de quoi tu peux mépriser cette espèce de non-musique, c'est parce que tu n'as pas été traversé par cette puissance. C'est toi qui es faible. Il te manque une grosse chose dans ta vie. Tu n'as jamais été traversé par la puissance punk. Quel dommage pour toi. Ça, c'est très vite comme ça que je me suis mis en place. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je crois profondément. Tu écoutes The Decline de NoFX et t'es indifférent à ça? Mon pauvre, si tu savais la joie que ça m'a procuré. Et que ça me procure à chaque fois que je l'écoute. Donc voilà, c'est le grand renversement des choses. Et donc j'en arrive à dire dans le livre, les gens qui aiment le punk sont minoritaires quantitativement, c'est sûr. On peut pas dire que le punk ait quand même une grande visibilité, hein, on l'entend quand même pas beaucoup à la télé, à la radio, voilà. Bon, après évidemment, il y a eu aussi des instances de légitimation du punk, je sais, je suis au courant, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ça reste quand même une musique pour être très considérée. Mais oui, je pense que les fans de punk, nous formons une aristocratie, mais c'est une aristocratie du bas. Moi, ce que je préconise, c'est l'élite d'en bas. Il faut que nous ayons des réflexes d'élitistes, que nous ayons une haute idée de nos goûts. Simplement, c'est des goûts du bas, quoi. Ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie populaire aussi, c'est des trucs sur lesquels j'ai toujours un petit peu réfléchi. Ce qui est une façon de retourner, encore une fois, le stigmate du mépris. On te méprise, méprise le mépris. C'est eux qui sont méprisables de ne pas comprendre la puissance que tu es. D'où les accents finaux du livre.
Oui, tout à fait. Bon, en parlant justement de ces accents finaux du livre, j'aimerais qu'on en parle parce qu'effectivement, il y a une tonalité lyrique. C'est que là où on est dans un essai, là on arrive sur quelque chose de peut-être plus littéraire. Et du coup, je vais commencer peut-être par lire un passage. Donc ça ne dure que quelques pages. Moi, je vais me contenter de quelques phrases. « Entretiens ta force et le mépris d'autrui glissera sur toi, comme paix sur toile cirée. Cire la toile que tu es, fais-toi luire, astique-toi, love-toi dans la fatalité que tu es. Laisse-toi souffler par l'esprit dévaler des cimes, rien que pour toi. » Donc moi, j'ai été à la fois troublé et un peu ému, justement parce que c'est lyrique, et justement parce que j'avais l'impression que c'était les armes un peu de droite, mais mis à des fins émancipatrices de gauche. Donc c'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais c'est juste que voilà, ça m'a semblé particulièrement saillant à ce moment-là, donc à la fin. Et j'aurais savoir s'il y avait une tonalité ironique, si c'était vraiment une envolée anarchiste pure. Enfin, j'aurais aimé un peu qu'on tourne autour de ce sujet.
C'est marrant parce que tu n'es pas le premier à me dire ça depuis que le livre circule. Tu es le deuxième. Et donc, je me dis, deux, ça commence à faire un peu sens. Quoi. Sinon, je te dirais juste, t'es tout seul à penser ça, casse-toi, quoi. Deux, ça commence à me faire travailler. Et quand même, j'étais un peu surpris la première fois qu'on me l'a dit, toi, t'es le deuxième, parce que pour moi, il va sans dire que ces dernières pages, moi, une dizaine, je pense, à la fin, sont d'un premier degré total, quoi. Enfin, c'est d'un lyrisme sans ironie. Ce qui est très rare sous ma plume, qu'il n'y ait plus d'ironie. Non, là-dessus, non. Tu sais, je peux pas dire ironiquement dans ces dernières lignes. Je dis par exemple, écoute de la musique, tu n'écoutes pas assez de musique. Ça peut pas être ironique chez moi. C'est dire des choses très simples. Prends bien soin de toi. Chéris le trésor que tu es. Cire la toile que tu es, comme tu viens de le lire. Alors ça, c'est le premier degré total, parce que ce que je constate depuis toujours, c'est comment les gens s'auto-déconsidèrent. Et en fait, finalement, la clé de ce livre, en tout cas son cœur vibrant, c'est vous êtes intarissable sur le mépris qu'on vous. Vous avez raison, c'est vraiment pas super d'essuyer le mépris. Vraiment, je comprends. Je dis d'ailleurs, je crois honnêtement que peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à un petit peu négliger l'humiliation que ça représente de ressentir le mépris, d'essuyer du mépris d'autrui, c'est parce que moi j'ai peu essuyé de mépris, de par peut-être ma position sociale, peut-être de par aussi un fait de personnalité. Mais je veux bien croire que c'est douloureux d'être méprisé, bien sûr. En revanche, il me semble qu'à chaque fois que je vois des gens être à ce point-là blessés par le mépris qu'on leur voue, je vois toujours qu'il y a un élément, on l'a un peu dit déjà précédemment, d'auto-mépris. Tu n'encaisses le mépris d'autrui que dans la mesure où, d'une certaine manière, tu le valides un peu. Donc en fait, ce à quoi nous avons affaire, ça c'est vraiment pour moi le cœur du programme politique à la rigueur, ou de mon impulsion politique, ce qui m'en reste, de mon tempérament politique. Nous avons affaire à beaucoup d'individus qui se déconsidèrent, qui se sous-estiment. Et c'est un fait social aussi, c'est pas un pur fait psychologique. Cette société n'arrête pas de leur inculquer une déconsidération d'eux-mêmes, à commencer par l'école, sur laquelle j'en remets une petite couche, comme je l'ai fait un peu dans Désertion, le roman d'avant. L'école, pour beaucoup... Alors, il arrive qu'à l'école, on contracte une sorte d'estime de soi. Tiens, je me sentais incapable de tout, et à l'école, j'ai découvert que je savais compter, lire... Bon, ça peut arriver. Je veux bien croire qu'à la marge, l'école peut parfois, au contraire... On peut y gagner en estime de soi. Très majoritairement, en fait, on y perd en estime de soi. Et notamment les classes populaires, qui échouent le plus majoritairement à l'école. Donc les classes populaires n'avaient pas trop d'avis sur « je suis bon, je suis pas bon, je suis intelligent, je suis pas intelligent », tel individu issu du prolétariat. À l'école, là, maintenant, il va être sûr qu'il est con. Voilà, c'est fait. Et ça, c'est des trucs à vie. Hein. Moi, je le vois, hein. Je rencontre des milliers de gens, dire des milliers dans ma vie, qui m'ont dit que l'école avait définitivement cloué en eux le sentiment de leur indignité ou le sentiment de leur inintelligence. Donc du coup, complexe d'infériorité. Et si tu fais un complexe d'infériorité, dès lors que tu essuies du mépris, tu le valides. Et il te blesse davantage. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Enfin, c'est bien ça qu'on dit, hein. Il n'y a que la vérité qui blesse. Si je suis blessé par du mépris, c'est parce que j'entrevois une vérité dans le mépris contre vous. Donc moi, c'est vrai que du coup, je termine comme ça. Oui, c'est lyrique. Oui, c'est lyrique et c'est chrétien. Je crois que pour moi, la bonne nouvelle du christianisme, ça a toujours été ça, quand même. Il y a une part de Dieu en toi, on peut le dire de cette façon-là. Je cite un moment une chanson, comme ça, incidemment, sans en avoir l'air, une chanson qui est une chanson populaire de variété, qui m'a toujours fait chialer. Quand j'étais petit, maintenant... Et c'est la chanson de Gérard Lenormand. Je ne sais même pas si vous connaissez encore Gérard Lenormand, vous qui avez moins de 40 ans. Qui était un chanteur de variété des années 70, qui a écrit notamment, enfin en tout cas qui a chanté une très belle chanson qui s'appelle Michel, non pas le Michel des Beatles, mais Michel. Ça dira des choses à des anciens comme moi. Très très belle chanson, Michel, dont les paroles ont été écrites par, je ne sais plus qui, mais quelqu'un que... Ah oui, si, par Didier Barbelivien, voilà. Comme quoi, la grâce peut traverser, y compris des imbéciles. Et il y a une chanson de Gérard Lenormand qui s'appelle... La balade des gens heureux. Vous connaissez cette chanson, non? Je viens te chanter la balade des gens heureux. Et il y a un moment, il dit, de toute façon, tout le truc est en refrain, il n'arrête pas de répéter comme une litanie. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Et il y a un moment, il dit, notre terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Cette phrase est dans du mépris, un peu en loose-dé. Notre terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je l'ai pas très bien chanté. Je viens te chanter la balade heureux. Bah, notre terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. C'est vraiment con, comme une sorte d'enfance chrétienne pour moi. Il peut y avoir ça dans le registre un peu chrétien. C'est presque un conte, comme d'ailleurs il y a quelque chose du conte dans la geste du Christ. Eh ben ouais, ben ce que je dis dans ces dernières pages, c'est peut-être pas beaucoup plus malin et compliqué que ça. Moi qui peux être très malin dans mes acrobaties rhétoriques, et très toujours à trois bandes un peu, là non. Notre terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Et donc crois en toi et foi en ta puissance. Et donc du coup peut-être que le prochain connard qui va arriver, qui va dire, vous êtes vraiment un bon à rien, machin, là, vous avez, regardez, vous avez 8 en histoire, vraiment, vous êtes nul. Bah, tu vas lui dire, mais ta gueule, je t'emmerde. Tu vas lui faire un doigt, là, disons les choses vulgairement. Tu vas être un punk. Parce que le punk, c'est quand même un peu ça, c'est, quoi, toi, tu me méprises? Toi, le blaireau, là, avec ta bagnole à la con, hein, c'est toi qui vas me dire que je suis un... D'ailleurs, punk était un retournement du stigmate, hein, comme on se dit un punk, ça veut dire déchet, je ne même plus la traduction littérale. Les punks se sont auto-appelés punk. Ils se sont dit, ok, tu me prends pour un punk, tu me prends pour un déchet, ben, ok, je suis un déchet, mais vraiment, je t'emmerde. Et je suis un déchet, et c'est puissant d'être un déchet. Voilà, c'est ça le truc, quoi. Ouais, c'est aussi simple que ça. Donc non, zéro deuxième degré dans ces dernières pages, je te rassure. Et je pense pas que ce soit, tu disais, oui, ça fait un peu... t'as dit quoi, rhétorique de droite ou...
J'ai dit pastiche droitier, peut-être.
Arme de droite.
Tu sais, les gens de droite que j'adore, hein, n'ont pas le monopole du lyrisme, quand même. T'as quand même une grande tradition du lyrisme à gauche, hein, tu sais... il a bien fallu qu'il y ait du lyrisme à gauche pour justement dire aux classes populaires, c'était déjà ça finalement, la gauche a toujours été un peu ça, c'est-à-dire, nous venons dire aux classes populaires, vous pouvez renverser la donne, vous pouvez retrouver une dignité, vous pouvez relever la tête, vous pouvez vous unir, vous serez fort, vous, tu vois, il y a toujours eu un truc, il y a un lyrisme à gauche vraiment, tu te retrouveras d'ailleurs dans une certaine poésie qui a accompagné la gauche, hein, de compagnons de route, du communisme par exemple, il y a quand même des textes... oui, je crois, il y a des textes très lyriques à droite aussi, hein, absolument, et très beaux d'ailleurs pour certains. Je pense que Bernanos est un grand lyrique de droite, et quel grand écrivain. Mais non, je t'informe que nous savons être lyriques à gauche, comme d'ailleurs le montre la fin de Du Mépris.
Bien entendu. Donc avant dernière question, la dernière question elle portera plus sur du style, sur de la forme, donc on la met en marge. Mais du coup, en tant que grand gourou, alchimiste presque des affects, donc vous prescrivez à la joie aux identitaires, en remède à la haine, le mépris aux prolétaires en remède à la honte. Vous écrivez même que du coup vous préférez l'amour à la pitié. Donc dans cette lignée, qu'est-ce que vous prescrivez aux bourgeois?
Putain, très bonne question. Alors là, je suis impressionné.
Ouais, regardez, là.
Ah là là, quelqu'un a réussi à me clouer le bec. Comment c'est possible, ça? Alors, il y avait un livre que j'avais fait en guerre, un roman. À la fin, il y avait un bourgeois, c'était un patron. Et alors, il faisait le premier geste, le geste matriciel de la geste franciscaine. Il se dépossédait de ses avoirs. C'est un peu ça que j'aurais tendance à dire aux bourgeois. Je dirais, es-tu bien sûr que les calculs commerciaux, que l'intensité commerciale, que l'érotique commerciale, parce que je crois quand même qu'il y a une vraie intensité du commerce, hein, c'est pas rien, c'est très redoutable. Mais est-ce que tu crois pas qu'il y a, est-ce que tu voudrais pas tenter un peu des intensités substitutives? Que l'intensité commerciale à laquelle t'es en train de te réduire. T'es en train de réduire ta vie érotique à l'intensité commerciale, c'est-à-dire l'intensité de maximiser ses profits. Ce qui est un truc qu'on connaît tous, hein. Je veux dire que tout le monde ressent, je poste une vidéo à 15h30, il y a 43 likes, et à 15h45, il y a 128 likes. Là, nous pouvons éprouver ce que c'est qu'une vibration de l'érotique commerciale, hein, une vibration de la croissance. Chacun est à même maintenant de pouvoir ressentir à l'intérieur de lui ce que c'est, ce qui nous tient dans le commerce, quoi, ce qui peut être tellement jouissif. Moi, je lui dirais, je pense qu'il y a des intensités substitutives. Tu te prives de tout un tas d'intensités. C'est ça que je pourrais dire. Et peut-être d'ailleurs, il y a une intensité de la pauvreté aussi. Hein. Voilà, peut-être que c'est ça qu'il devrait essayer.
La dépossession.
Oui, tout ça. Je pense qu'il y a une jouissance de la dépossession. Mais pour ça, d'ailleurs, il va pas être convaincu, évidemment. Et il va pas le faire le lendemain, je le sais. Tout ce que je peux peut-être lui indiquer, je veux l'aiguiller vers des gens qui témoignent de ça. Hein, ce ne serait pas une vue de l'esprit de Bégodeau, qui vaut ce qu'elle vaut. Ce serait, non, il y a des gens qui l'ont fait dans l'histoire et qui ont témoigné du gain d'intensité qu'ils en avaient contracté. Beaucoup, moi, j'avais fait dans ce film qui s'appelait Autodome, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, je crois, c'était des gens qui, pour la plupart, avaient abandonné un certain confort, pour un peu se donner à l'autonomie et donc à la pauvreté, parce que pour être autonome, il faut vraiment consentir à une certaine pauvreté, autonome par rapport au marché. mais qui témoignaient du fait qu'ils ne regrettaient en rien, qu'ils avaient gagné quelque chose. Ils se sentaient beaucoup plus vivants depuis qu'ils avaient abandonné leur confort. Alors, en fait, c'est ça, il faut s'éduquer, il faut écouter les témoins, les gens qui ont fait des choses. Voilà, c'est ça qu'on peut faire, beaucoup plus que de le libeller génériquement, qui, à mon avis, ne convaincra jamais personne. Si demain, je croise un start-upper et que je lui dis, mais tu sais, en fait, il y a une intensité qui t'attend, elle n'attend que toi, et qui serait l'intensité du dépouillement, il va me regarder avec un air, excuse-moi, j'ai un rendez-vous, donc là, je pense à foutre, tu vois, voilà, je me casse. Donc il faudrait plutôt, oui, lui indiquer des gens qui ont éprouvé ça, quoi. Parce que c'est vrai.
Et multiplier ces canaux de réceptivité de la vie. Parce que tu disais dans Notre Joie, il sent plus la pluie parce qu'il prend le taxi, parce qu'il y a un confort qui... Ça le coupe de ça.
Ouais.
Donc ouais, de l'intensité vitale. Lui proposer ça, éventuellement.
Ben, sachant que c'est toujours un peu l'histoire du noyé qui essaie de se sauver en se tirant les cheveux. Parce que je vois bien qu'en fait, ce qui pourrait faire bifurquer des gens, c'est d'avoir déjà goûté à l'intensité que je pointe. Or, s'ils y ont déjà goûté, c'est qu'en fait, le travail est déjà fait. C'est ça, la circularité du truc. Alors, ce qui peut sauver un bourgeois, par exemple, mais moi aussi, j'aimerais bien me sauver en tant qu'un peu bourgeois à mes heures, c'est d'être, malgré lui, incidemment et accidentellement confronté à une expérience sensible dont il ne se doutait pas. Donc, exemple, mais beaucoup de films sont écrits comme ça. Un bourgeois très cossu, très confortable, et donc un peu devenu un connard, en tout cas devenu... un individu évidé, déshumanisé. Un jour, il prend le taxi, mais merde, le taxi tombe en panne, et le chauffeur de taxi, du coup, va chercher le dépannage, mais du coup, il se retrouve seul dans le taxi, le chauffeur ne revient pas, il pleut à verse. Le mec dit, attends, qu'est-ce qu'il fout? Et puis finalement, ça revient pas. Bon, je vais finir à pied. Il fait 3 km sous l'averse. Et là... cette chose qu'il voulait absolument éviter, l'averse, quoi. Le mec n'a pas été mouillé, ses cheveux n'ont pas été mouillés depuis 1000 ans, quoi. Et là, il ressent, au début, il est pas content, quoi. Les 2 premières minutes, putain, chier ce chauffeur, j'ai tout mouillé, j'ai froid. Et, au bout de 2 minutes, l'averse devient un bénéfice. Il envoie il trouve que c'est vachement beau, quoi, d'être mouillé, ce truc qui vient du ciel, qui est quand même encore un peu naturel. Malgré la toxicité de la pluie. Et là, voilà, c'est ça. C'est ça aussi la grâce, quoi. C'est quelque chose te tombe dessus, tu as accès à une expérience sensible que tu ne soupçonnais pas. Et pour ça, en général, il faut que ça arrive accidentellement. Parce que précisément, tout l'éthos bourgeois, plutôt l'habitus bourgeois, a été constitué de sorte que rien n'arrive jamais. Ce que j'essayais de décrire dans l'histoire de ta bêtise. Surtout qu'il n'arrive jamais rien. Qu'il n'arrive aucun accident. Donc ces gens-là se sont privés de toute possibilité d'une brèche. Par quoi passe la grâce? Donc il faut autre chose.
Justement, là, si nos bourgeois dépouillés nous écoutent, ils vont peut-être être plus à même requis par là. Ouais. Du coup, dernière question sur la forme, sur le style propre du livre, et aussi un peu du roman précédent, donc Désertion. C'est que je trouve qu'il y a dans le livre, du coup, un soin particulier apporté à la voix prolétaire. C'est-à-dire, on l'entend dans les phrases. Et ce qu'il y a de particulièrement notable, c'est que c'est pas forcément du discours direct rapporté. C'est pas entre 2 guillemets le prolo qui parle. C'est justement dans les phrases du narrateur-auteur, il y a certaines oralités qui sont glissées prolétaires, et du coup, on l'entend d'autant mieux. Donc ça, c'est purement formel. Du coup, je vais prendre un exemple. Là, c'est quand vous écrivez à propos de Gianni et Raymond, donc qui sont les 2 figures prolétaires du livre qui servent à dérouler un petit peu la thèse. Vous dites, quand ces deux-là ont un truc à dire, ils le disent, parce qu'ils sont désolés, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Donc cette phrase, elle exprime bien ce que je viens de dire là. Donc j'aurais aimé savoir, qu'est-ce que cette mécanique, elle peut nous dire un peu sur le thème du jour?
Bon, d'abord, c'est quand même très très bien d'observer, et effectivement, c'est assez commun à mon travail romanesque ou à mon travail d'essai. Alors oui, ce que j'essaie de faire, notamment dans les romans, c'est d'organiser une espèce d'égalité des discours, justement, et d'égalité des postures. Pour moi, le roman est un genre fondamentalement démocratique, mais c'est pas le lieu que j'explique exactement ce que je veux dire par là. Mais ça passe effectivement par une sorte de fusion entre la voix du narrateur, la voix de l'auteur, la voix des personnages, et tout ça peut un peu s'intriquer, ce que j'essaie de faire, notamment dans mes romans, depuis maintenant au moins 4 ou 5 romans. Et on en retrouve des éléments dans Du Mépris, donc c'est très très bien vu. Je pense que si je fais ça, eh ben c'est d'abord l'opération, c'est quand même souvent dans les romans d'ailleurs essentiellement, c'est que c'est le contraire du mépris. C'est parce que je considère il y a un parler populaire, en tout cas on peut dire un parler oral. Enfin, nous sommes tous populaires par où nous oralisons toujours un peu nos propos. Aucun d'entre nous ici ne parle comme un livre. Alors qu'on est tous très lettrés, très cultivés. Moi, j'ai une langue très orale, sauf peut-être quand, là, voilà, dans un entretien, j'essaie un peu de faire monter ma langue, mais globalement, j'ai une langue très oralisée. Et j'ai un vrai goût, moi, pour l'oralité, comme l'espèce de lieu commun linguistique de toutes les classes sociales qui serait notre assise populaire, en fait, du parler, quoi, où on fait des élisions, on fait des raccourcis, c'est très imagé, c'est un peu un trivial, on est tous un peu comme ça. Je veux dire, on est tous un peu « Oh putain, qu'est-ce qui m'est arrivé hier ?» Bon, ça peut se dire dans n'importe quelle classe sociale, et c'est trivial. Certains même trouvent qu'il ne faudrait plus dire « putain » maintenant, mais passons. Donc ça, j'aime bien y faire droit dans mes romans, tout simplement parce que je trouve ça... J'aime bien cette langue, quoi. Voilà. Et elle vient comme ça. Après, je veux pas faire deux points d'ouvrir les guillemets parce que je trouve que ça alourdit la phrase. Et donc, en fait, tu vois, dans ce que tu viens de lire, on comprend bien qu'en fait, c'est Raymond qui parle ou Gianni, puisque effectivement, ce sont les deux prolos. Alors, les deux prolos de droite de Du Mépris. Raymond étant le mec qu'on voit beaucoup à TPMP pour ceux qui, voilà, qui n'auraient pas encore lu le livre. Donc, TPMP qui maintenant s'appelle. C'est un jeu de mots. Ouais, c'est ça. Tout bout du neuf, parce qu'ils sont sur la neuf. Il y a eu de la réflexion. Il y a eu du brainstorming quand même, je vois. Tout neuf. Et Raymond, toujours là, d'ailleurs, je crois. Voilà. Et donc, faire entendre leur langue, là, ça vient aussi du fait, j'essaie d'être méthodique, hein, mais je vais essayer de ne pas être encore complètement dans un tunnel. Oui, je crois profondément que ce qui nous caractérise, nous identifie et identifie notre personnalité, c'est la façon dont on parle. C'est pour ça que j'y accorde tellement d'attention dans mes romans. Si tu veux caractériser un personnage, il faut aussi un peu quand même faire entendre sa langue. Nous sommes quand même des êtres parlants. Il en est même pour dire que ce qui nous caractérise en propre, nous les êtres humains, c'est que nous parlons. C'est pas rien notre verbe, quoi. Et donc, oui, si t'arrives à... Voilà, il y a des façons différentes quand même de parler. Et si t'arrives à faire entendre la langue d'un personnage, t'as déjà dit beaucoup de lui, beaucoup plus que si tu décris la forme de son nez ou la largeur de son front. Hein. Moi, je comprends pas que des écrivains perdent leur temps à décrire le front d'un personnage. Je ne vois pas l'intérêt. À moins d'être dans des trucs un peu douteux, du genre, on a un peu le visage de sa personne... Ça sent un peu l'anthropométrie, enfin, c'est bizarre. Donc moi, la langue, et donc oui, le beauf de droite, il a, non pas une langue forcément, mais il a un ton, il a une tonalité. Et le truc du genre, non mais je suis désolé, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Ça, pour moi, c'est la musique du beauf de droite. C'est la musique des grandes gueules de RMC, quoi. C'est, non mais je suis désolé, mais il y a un moment, si les squatteurs, on leur permet tout, hein, que maintenant, on peut plus habiter chez soi, et que la police et la justice, ils sont du côté des squatteurs contre le proprio, mais je veux dire, où est-ce qu'on va, quoi? Il y a un moment donné, il y a des limites. Voilà, ça, c'est la... Voilà, c'est Raymond. Mais c'est Raymond, mais c'est aussi beaucoup de gens dans ma famille, voilà, à un moment donné, quoi, ça suffit, tu vois, cette espèce d'indignation permanente, exclamative, et qui toujours constitue une scène sociale où tu es toujours le floué. C'est parce que c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours floué par les autres. Nous, on est des bons travailleurs, et ben, tu vois, il y a les squatteurs, là, ils arrivent, personne ne leur dit rien. Donc moi, je vais faire pareil dans ce cas-là. Je vais aller chez les gens, je vais squatter chez eux. De toute façon, je sais que la justice, elle sera de mon côté. Bah, c'est facile aussi. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on se bouge le cul. Et que, voilà. Et c'est tout ce que je déteste. Donc là, du coup, cette citation-là, elle n'est pas très empathique. Tu vois, j'ai commencé par dire que je pouvais beaucoup aimer un certain parler populaire, y compris très trivial. Ça m'a même parfois joué des tours dans ma vie, d'aimer la trivialité. Là, non, j'aime pas. Hein. À un moment donné, là, c'est plus pour dégommer Raymond et Gianni. Là,
dans Désertion, c'est beaucoup plus tendre.
Ouais, beaucoup plus, beaucoup plus.
Mais c'est la même un peu mécanique.
C'est la même mécanique que tu as très très bien identifiée, mais pour le coup, avec beaucoup plus d'empathie que... Pour Raymond qui commence un tout petit peu à me taper sur les nerfs, Raymond de tout beau tout neuf. J'ai fait le tour, ouais, j'ai fait le tour, non?
On est bon.
Ouais.
Mais bah François Bégodeau, c'était une joie.
Ouais, mais moi c'est toujours une joie de venir ici. Je le dis vraiment. D'abord, on m'a dit beaucoup de bien de notre précédent entretien qui était en plus sur un livre un peu maudit sur lequel j'avais pas fait beaucoup d'entretiens, et les amoureux de Comme une mule, qui crée une petite aristocratie, ça existe, vous sont très reconnaissants d'avoir aussi bien honoré ce bouquin quand on en avait parlé ensemble. Vraiment, je vous le dis rétroactivement, parce que franchement, ça faisait du bien ce livre.
Ah, on savait pas. Ça me touchait, et fier.
Et ça va faire du bien à du mépris aussi, mais qui est un livre un peu plus aimé, a priori, que l'était Comme une mule, le livre maudit.
Bon, merci François.